Il est 20h.
Parlons vrai.
Les infos avec François Germain. Bonsoir François.
Bonsoir à tous.
C'est bon? Eh bien, bonsoir les amis. Donc la deuxième heure, beaucoup plus cool. On peut déborder, on n'est pas stressé, il n'y a pas de publicité. On est pratiquement dans un monde idéal, tel que le rêve Étienne Chouard. Hein, et peut-être Régis Castelnau qui va nous le dire. Et donc, Étienne, peut-être prenons un peu plus de temps pour représenter en détail les ouvrages que vous avez présentés à la fin de la première heure. Parce que là, c'était quand même... speed. Hein. Donc,
Alors, le premier, c'est ce qui est intéressant dans la présentation de bouquins, c'est de prendre un peu le temps d'expliquer pourquoi les livres sont importants. Le premier bouquin dont j'ai parlé, qui est de Bernard Manin, « Principe du gouvernement représentatif », qui a vraiment un titre pas attrayant, et pourtant un livre essentiel, passionnant, au moins pendant la première moitié. Parce que dans ce bouquin, Bernard Manin fait le point des principes du gouvernement représentatif, c'est-à-dire
de l'élection.
Et il est comme surpris par le fait qu'il voit disparaître de la culture politique le tirage au sort. Et pour que nous soyons moins bêtes, il nous rappelle, donc il synthétise l'histoire de ce tirage au sort. Et pour nous qui n'avons jamais entendu parler du tirage au sort, à l'époque où je l'ai lu, c'était vraiment bouleversant. C'est comme un plaidoyer. Alors que j'ai compris que, en le rencontrant et en parlant avec lui, j'ai compris qu'il était lui plutôt favorable à l'élection. Mais il le fait de façon honnête, un peu comme Tocqueville décrit la démocratie de façon honnête. Et on ne sait pas si on n'arrive pas bien à savoir s'il est pour ou s'il est contre. Hein. Tocqueville écrivait à son frère. C'est son frère qui écrivait à Tocqueville. Attention, on a vu ce que tu pensais. Et on avait dit. Il ne faudrait pas qu'on le voit. Et donc Tocqueville réécrivait sous les conseils de son frère. Et c'est ça qui fait, je trouve, que Tocqueville est agréable à lire. C'est qu'en fait, il est assez honnête sur les points de vue différents qu'il présente. Et bien, Manin fait ça aussi. Il présente honnêtement les avantages du tirage au sort, les avantages de l'élection. Et pour nous, qui, à mon avis, sommes les seuls qui sommes légitimes à pouvoir choisir comment nous allons désigner nos représentants et quels sont les représentants que nous voulons élire, quels sont les représentants que nous voulons tirer au sort. Peut-être qu'on va faire un mix des deux. C'est remarquable, ce plaidoyer-là est remarquable, très utile.
Alors je précise, parce que je prends au fur et à mesure les questions, évidemment ces livres, on peut les trouver d'occasion chez les bouquinistes, partout, sur les sites. Ce sont des formats poche pour beaucoup, et on les trouve d'occasion, pas très cher, entre 2 euros et 10 euros maximum, vous pouvez avoir ces bouquins. Voilà.
Deuxième bouquin, vraiment sur cette histoire de tirage au sort est à mon avis essentielle, parce que je trouve à l'élection des défauts de corrupteurs, je ne trouve que des défauts en fait à l'élection. Et ça m'intéresse, j'aimerais bien, alors je ne sais pas si on pourra faire ça dès aujourd'hui, je pense, c'est pas ça que j'avais prévu, hein, mais... On fera une émission, si tu veux bien, si vous voulez bien, sur le procès de l'élection, pour qu'on envisage chacune des faiblesses de cette procédure, une par une, pour voir à quel endroit je me trompe, j'exagère, si ça vous intéresse. Parce que vraiment, en fait, pour chacun des défauts de l'élection, on a l'équivalent en qualité du tirage au sort. Et donc, pour comprendre... ce qu'est le tirage au sort, il faut découvrir le bouquin de Saint-Omer, Petite histoire de l'expérimentation démocratique. Ce petit bouquin-là, sur le plan non pas théorique, mais très pratico-pratique, récapitule les expériences de tirage au sort. Les humains testent déjà, nous non, mais il y a plein d'humains sur Terre qui testent le tirage au sort. Et les résultats sont remarquables, enthousiasmants. Les simples citoyens tirés au sort, sont tout à fait capables d'écrire une constitution. Par exemple, en Colombie-Britannique, ils l'ont fait, ils ont réécrit des citoyens, n'importe qui, hein, des gens qui regardaient la télé en faisant des blagues à la con, en mangeant du pop-corn et buvant de la bière. Des gens...
Avec modération, non, ça, sur les réseaux, on peut dire qu'on boit...
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est des gens dont vous n'auriez jamais supposé qu'ils étaient capables d'écrire une constitution...
Sans alcool.
Or, ces Canadiens, Colombie-Britannique...
Canada Dry. Hein,
ces simples citoyens se sont rendus capables, parce qu'on leur a confié cette mission, ils se sont rendus capables d'assumer cette mission, et ils ont réécrit le code électoral du Canada. Et c'est enthousiasmant, c'est plein d'expériences comme ça, c'est un bouquin... remarquable. Le bouquin de Dupuis-Déry, Démocratie, histoire politique d'un mot, aux États-Unis et en France, nous permet de comprendre comment est-ce que nous en sommes arrivés à appeler démocratie son strict contraire, c'est-à-dire comment nous en sommes arrivés à appeler démocratie un régime dans lequel le démos n'a aucun kratos. Aujourd'hui, nous n'avons que le pouvoir de désigner des maîtres, aucun pouvoir de prendre les décisions nous-mêmes. Nous sommes condamnés à élire et interdits de vote. Ce bouquin est absolument, c'est une somme, j'aurais voulu écrire ce livre. Et encore sur la démocratie, le bouquin de Grébert, qui est, vous savez, Grébert, c'est celui qui a fait la démocratie, qui a fait le 5000 ans, d'être 5000 ans d'histoire. C'est un anthropologue, c'est éblouissant, c'est une histoire de la monnaie, c'est une histoire de la dette, mais donc de la monnaie, et c'est en même temps une histoire des hommes depuis 5000 ans. Et c'est le même gars qui a fait la démocratie aux marches, dans lequel il décrit... des tas d'expériences démocratiques complètement méconnues qui ne sont pas la démocratie athénienne, qui sont la démocratie dans les sociétés pirates, décrite par Marcus Rediker, qui est un grand spécialiste international de l'histoire des pirates. Les pirates étaient des démocrates, c'est-à-dire que c'était des marins opprimés qui en avaient marre de l'oppression, qui se mutinaient et qui établissaient de nouvelles sociétés sur leurs bateaux ultra-démocratiques, avec le capitaine. Le capitaine ne peut donner des ordres qu'en temps de guerre, pendant l'abordage. Et autrement, il ne doit pas donner des ordres. Donc, comme dans les sociétés amérindiennes, le chef Sioux ne peut pas donner d'ordre en temps de paix, il ne peut diriger qu'en temps de guerre.
C'est les vrais chefs, ça, normalement.
Voilà, les vrais chefs, en fait, dans les démocraties dignes de ce nom, les chefs n'ont de pouvoir qu'en temps de guerre. Pas en temps de paix. Et le capitaine des pirates, en fait, était surveillé en temps de paix par le quartier-maître, dont la fonction était de le jeter à la mer s'il s'avisait de donner un ordre. Donc, il s'occupait de leur démocratie. Et donc, il y a plein d'exemples comme ça dans les sociétés villageoises médiévales, où nous votions nos lois à main levée. Donc, c'était des vraies démocraties. Alors, avec des problèmes, hein, mais une société beaucoup plus démocratique que le nôtre. Et puis encore sur le tirage au sort, le bouquin de Jacques Testard, ça c'est aussi très pratico-pratique, ce type est un scientifique qui teste aujourd'hui dans des conventions de citoyens le tirage au sort sur des cas difficiles, par exemple l'euthanasie, oui ou non, des sujets vraiment sur lesquels il y a des arguments pour, des arguments contre, c'est très difficile d'opiner, c'est difficile d'avoir un avis, et Jacques se défie du référendum parce qu'il trouve qu'on demande d'opiner à des gens qui ne connaissent rien de la question sur laquelle on leur demande de donner leur avis, alors que lui prépare ses tirés au sort, il les forme, il a un comité de pilotage, il décide d'un comité de pilotage dans lequel il met les experts, les meilleurs experts du oui et les meilleurs experts du non, et ces gens doivent, dans le comité de pilotage, ces gens doivent composer un programme de formation des tirés au sort, et qui soit consensuel et qui soit complet, puisqu'il va y avoir l'avis favorable au oui, favorable au non, quelle que soit la question. Et les tirés au sort sont ainsi formés par l'équipe de Testard sur les indications du comité de pilotage, et Jacques explique dans ce bouquin, L'humanité au pouvoir, il explique la transformation des tirés au sort. C'est-à-dire que des gens qui ne connaissaient rien au sujet et qui avaient plutôt peur même de la question parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait un enjeu, comment ils se forment sur la question, comment ils se transforment et comment souvent Jacques et son équipe observent que les tirés au sort prennent souvent des décisions contraires à leur propre intérêt. C'est-à-dire que la façon de discuter que met en place Testard, donc les institutions, si tu veux, du tirage au sort, cette façon d'instituer le tirage au sort conduit les humains à dépasser leurs intérêts personnels et se hisser au niveau de l'intérêt général, et ils l'observent de façon pratico-pratique, concrète, et les opinions que produisent ces assemblées tirées au sort sont toujours remarquable, digne de ce qu'auraient fait des élus, évidemment. Donc ce livre-là est là encore un plaidoyer enthousiasmant pour... Il a fait plein de vidéos sur Internet que vous pouvez regarder. C'était Star avec un T. Voilà pour défendre bien une vraie démocratie.
Alors déjà, je réponds à une salve de questions qui revient
sur Internet
en boucle. Voilà, donc c'est un peu l'exercice dans cette deuxième heure pour que ce soit plus interactif.
Oui.
Beaucoup de personnes posent des questions sur le débat de ce matin sur CNews avec Pascal Pro. Donc moi, je précise simplement, bon, la deuxième heure ici, c'est beaucoup plus cool. C'est une heure qui peut faire deux heures d'ailleurs, puisqu'on est tenu... à part notre propre fatigue et l'épuisement, comme Fidel Castro au registre de Castelnau, qui est en forme ce soir, ça va, il est nickel, il va rester des heures et des heures. Non, blague à part.
C'est du chantage, là.
C'est du chantage odieux. Non, l'idée, effectivement, c'est pour ça, moi, je l'en dis aussi un mot, j'avais décidé de ne plus aller sur les plateaux de télé, non pas que j'aime plus les gens ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que l'exercice de démocratie aujourd'hui, dans ce qu'on est en train de faire, ça ne convient pas vraiment, et notamment pour les Gilets jaunes aussi, où on est un peu au milieu dans la fosse au lion, et pour prendre la parole, déjà, il faut lutter. Donc moi, je ne critique pas ça. Je dis simplement, moi, j'y vais plus. Et je dis, aujourd'hui, voilà, on est plus cool, on est entre nous, et on prend le temps, parce que c'est des pensées complexes, ce sont des problèmes complexes, la démocratie participative versus la démocratie représentative qu'on a depuis des décennies. Donc, prenons le temps de la réflexion, et puis il y a du replay, comme ça, c'est cool. Alors, une question intéressante, je trouve, que je vous pose, Étienne, et puis Régis répondra aussi. Pour faire accepter l'idée de tirage au sort, ne serait-il pas intéressant d'introduire le principe de convention citoyenne de Jacques Testard, dans un premier temps, pour avoir un avis consultatif sur des sujets de société? Parce que c'est là, c'est la première question. Et la deuxième, connexe, c'est comment on institue le RIC, je pensais à la RICS de ce matin, donc je fais un mot valise. Comment on institue le RIC et quel est le point de départ, en fait, et comment on se sort de cette démocratie représentative? Ça, c'est une question aussi récurrente aujourd'hui, mais qui est récurrente depuis des semaines. Étienne.
Sur l'application dans la Constitution des conventions de citoyens, peut-être que... Alors, je ne sais pas si on fera ça aujourd'hui, peut-être que ce sera la semaine prochaine, la semaine d'après, mais on pourrait écrire un article qui confie... aux représentants, aux élus, la mission de préparer les lois, mais de faire préparer les lois par des assemblées ad hoc, citoyennes, tire au sort, quand ils sentent que c'est un sujet qui n'est pas un sujet... dans l'ensemble de la législation, il y a des tas de lois que la plupart des gens veulent pas débattre, la plupart des gens veulent pas discuter des lois et participer au processus législatif. Par contre, il y a des sujets sur lesquels ils voudraient bien être interrogés, ils voudraient bien opiner, ils voudraient bien décider. Et le principe de la représentation, à mon avis, tel que je le vois dans les ateliers constituants, c'est que les gens voudraient être représentés pour tout ce qu'ils n'ont pas envie de faire, pour tout... En fait, ils veulent confier un travail qui est ingrat et difficile à des gens qui vont être élus pour ça. Mais ils voudraient bien garder la main sur les sujets qu'ils considèrent comme importants. Et on pourrait dire, dans une constitution, que nous écririons, nous, que les élus, leur boulot, c'est de s'occuper, eux, des tâches ingrates. Et quand ils sentent que le sujet est un sujet de société, qu'il va y avoir des résistances, qu'il va y avoir des oppositions, qu'il va y avoir un conflit de société... au lieu de trancher à notre place, soit ils organisent un référendum, soit, s'il y en a trop, ils peuvent organiser ces conventions de citoyens parce qu'elles ressemblent, en fait. Comme elles sont tirées au sort, c'est des gens qui nous ressemblent et qui vont se transformer comme nous serions transformés. Ce que dit Jacques Testard, qui est tout à fait remarquable, c'est qu'ils ont l'impression, lui et son équipe, ils ont l'impression d'avoir toujours la même assemblée. Alors que ce n'est pas la même assemblée, ce n'est pas les mêmes citoyens, ce n'est pas les mêmes humains. Et pourtant, ils se comportent toujours de la même façon. C'est-à-dire que les institutions que lui a mises au point d'organisation de ces conventions de citoyens produisent un résultat comparable. Et ça nous permet, à moindre coût et moindre mobilisation de la population, d'avoir une décision qui ressemble beaucoup plus à ce qu'aurait décidé la population que quand ce sont des avocats, des notaires, des médecins, des fonctionnaires, comme ce qu'il y a à l'Assemblée nationale, qui ne nous ressemble pas du tout, dans lequel il y a pas assez de femmes, il n'y a pas assez de chômeurs, il n'y a pas assez de pauvres, il n'y a pas assez d'ouvriers, d'employés. Elle ne nous ressemble pas, l'Assemblée nationale. Elle ne décide pas comme nous aurions décidé. Et donc, on pourrait, dans nos institutions, à la fois garder des élus, mais qu'on ne laisserait pas décider complètement à notre place, on leur donnerait la mission de convoquer des assemblées ad hoc, et puis ensuite de transcrire dans le droit les conseils de ces assemblées. Ça te paraît jouable, ça, ou ça te paraît trop compliqué?
Pas trop compliqué, parce qu'en plus, avec les moyens numériques, etc., je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Je voudrais répondre sur cette notion de tirage au sort. Ce que tu proposes, c'est de dire, bon, voilà, il y aurait toute une partie, je veux dire mécanique, toute une partie technique, technico-technique, qui relèverait des gens qu'on a mis là, par l'élection ou pas, pour le faire, mais quand il y aurait des sujets importants, on ferait du grand débat, autrement que ceux qui étaient organisés par Madame Joanneau à l'occasion de grands projets. C'est-à-dire que ça existe déjà, où il y a des hiérarchies dans les lois, hein, les lois organiques. À ce moment-là, on consulte le Conseil d'État, c'est-à-dire cette hiérarchie dans les textes, elle existe, et qu'on prévoit pour chacun de ces textes en fonction de son classement. Effectivement, une question sociétale sur l'euthanasie, évidemment, extrêmement importante.
On ne fait jamais discuter des citoyens pour l'instant.
Non, on est d'accord. Non, je dis, absolument. On peut les faire discuter sous des formes qui sont bâtardes sur les grands projets, les grands projets d'équipement, etc. Avec des enquêtes publiques où les gens participent quand même, toutes les procédures administratives. Mais le principe du tirage au sort, il existe déjà, et effectivement, c'est celui de la cour d'assises.
La cour d'assises, oui.
Ouais, c'est celui de la cour d'assises. J'ai pratiqué, c'est-à-dire qu'effectivement, ces six personnes en première instance, avant il n'y avait pas l'appel, hein, maintenant il y a l'appel, ça vaut mieux d'ailleurs. Les mécanismes montrent quand même. C'est pour ça que je suis contre la présence des magistrats dans le délibéré, oui. Mais montre finalement comment les mécanismes d'autorité, les mécanismes de savoir, les mécanismes de symbolique, hein, les magistrats en robe, etc., jouent, hein, sans qu'ils fassent pression. Mais ce qui arrive quand même qu'ils le fassent, c'est-à-dire ça fausse quand même un petit peu la présence. Et moi, je serais partisan qu'on les retire. Il y a une chose, moi, très souvent avec Étienne, sur un certain nombre de techniques, moi j'y suis assez favorable. L'implication des gens dans la vie de la cité, ça me convient très bien. Le contrôle, c'est la question du contrôle qui est pour moi extrêmement importante. Moi je suis avocat. C'est quoi la justice? La justice, c'est la défiance vis-à-vis de l'homme juge, que je dis souvent. Hein, la justice, quand j'entends quelqu'un qui dit « je fais confiance à la justice », c'est une hérésie absolue. Elle repose, parce qu'elle est rendue par des gens comme moi. Hein. Donc elle repose sur la défiance, ce qui fait qu'il y a des procédures, collégialité, double degré de juridiction, etc.
Et d'où l'appel, ce qui était quand même nécessaire, ça, en assise.
Oui, tout à fait.
C'était même incroyable qu'on puisse
pas
faire appel.
Non, parce qu'il y avait un principe. Le principe, c'était vox populi, vox dei. C'était des gens tirés au sort. Hein. Alors qu'à une époque, c'était quand même sociologiquement assez. Il a fallu élargir. Hein. C'était, ouais. On avait quand même. C'était les notables de province, hein, qui siégeaient. Mais ça a changé. Mais il y a une chose qui est non pas gênante, mais qui est à l'origine de nos éventuels désaccords. C'est que quand on discute avec Étienne, qui s'emballe très vite, qui est passionné, et j'adore ça, hein, je veux dire, sur l'importance qu'il y aurait d'instaurer telle méthode, de discuter sur le tirage au sort, pourquoi pas, c'est que pour moi, il y a quand même un préalable. Alors, je vais parler d'un livre, hein, que je conseille à tous, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Homo Domesticus, et c'est là où j'ai appris qu'il existait une anthropologie anarchisante, non pas anarchie-liberté, c'est pas proudhonien, mais qui travaille l'anthropologie, et en particulier la révolution néolithique, du point de vue de l'émergence de l'État. Bon, c'est que, je veux dire, les États, alors, sédentarisation, agriculture, État, il y a une espèce de récit qui rend linéaire, ça ne s'est pas passé de façon aussi linéaire, mais l'émergence de l'État intervient dès lors qu'il y a confiscation du surplus. C'est-à-dire que, dès lors qu'on passe à une économie de production, qui est une erreur stratégique de l'homme considérable, hein, les maladies, l'asservissement, la domestication, parce qu'on dit qu'on a domestiqué le chien, c'est pas vrai, c'est le chien qui nous a domestiqué, les céréales nous ont domestiqué, c'est une démonstration qui est très troublante, mais l'État et les systèmes de domination, parce que ce dont on parle, Rome, la Grèce, etc., c'était quand même des systèmes de domination, ne serait-ce que parce qu'il y avait l'esclavage, déjà en bas de l'échelle, mais bien, c'est que s'organisent les sociétés à partir justement du mode de production pour l'organisation et la confiscation du surplus produit. Donc aujourd'hui, on est quand même dans un dispositif qui est devenu, ça s'est aggravé, oligarchique, incontestablement, depuis 30 ou 40 ans, il est devenu oligarchique. On voit des fortunes absolument colossales qui se sont faites, quasiment plutocratique, avec le capitalisme financier et ses excès, etc. Et donc, comme ça devient très contradictoire avec un fonctionnement démocratique, on nous annonce la démocratie sans le démos. Alors, toi, tu dis que déjà, c'est une inversion de terme, mais il y en a qui disent, oh non, même pas, on va faire fonctionner cette société, mais on n'a plus besoin du peuple. Bien, le peu de pouvoir qu'il avait encore. Oui. C'est que pour moi, il y a un préalable quand même, qui est le renversement de ce dispositif. Je veux dire, parce que lorsqu'on voit... prenons l'exemple de l'Assemblée nationale. Comment ça s'est passé? C'est extraordinaire, techniquement et mécaniquement. On a eu l'inversion du calendrier.
Absolument.
Et ça...
On l'a dévoyé la Ve République,
oui,
déjà
mais
avec ça.
Oui, mais ce n'était pas si facile que ça de le comprendre quand ça a été fait. Mmh. En se disant, parce qu'il y avait une forme de rationalité...
Rappelle, pour ceux qui écoutent...
Oui, c'est vrai.
On est passé du septennat, déjà,
voilà,
au quinquennat.
C'est-à-dire qu'on a dit 7 ans, c'est trop long.
On est passé de 7 ans président et 5 ans Assemblée nationale, on est passé à...
À 5 ans président,
mais
par hasard, voilà. Par un hasard du calendrier, l'élection présidentielle...
précède... La législative.
Non. L'élection présidentielle et les élections législatives étaient la même année. Et donc, les législatives devaient se passer en mars, fin du mandat, et la présidentielle en mai.
Ah oui, après.
Se passer après. Et qu'a fait à ce moment-là Lionel Jospin? Il a inversé le calendrier. Or, on l'avait déjà vu quand même en 80...
Au motif de dire c'est plus logique et ça va faire une respiration démocratique.
C'est vrai que ça l'était.
Et on se rend compte avec le recul.
Mais attention, le peuple français, il a aussi des responsabilités là-dedans quand même. Parce qu'en 81, quand François Mitterrand est élu président de la République, il a une chambre de droite, celle qui a été élue en 78. Il dissout en disant je vais avoir un état de grâce, il avait raison. Il y a une partie de l'électorat de droite qui se démobilise en disant, bon, ben, ils ont le poste de président, il faut qu'ils aient une chambre pour faire leur boulot. Et ça deviendra un peu systématique. Alors qu'effectivement, il aurait pas fallu faire comme ça. Mais je comprends qu'on l'ait fait. Il y avait un côté assez responsable. Enfin,
ce qui est compliqué, c'est qu'on est dans un régime monarchique qui ne dit pas son nom, qui est matiné un petit peu de représentation nationale. Mais on voit bien que c'est quand même... On voit bien que c'est quand même le monarque qui décide. Et s'il n'a pas de majorité, il dit « je ne peux pas faire ma politique ».
Mais non,
et
justement,
ça, c'est ancré dans le peuple français.
Oui, mais parce qu'on a transformé le président de la République, qui surplombe, et Macron nous en a fait une belle démonstration avec son discours de Nouvel An, où il a dit « les deux tiers des Français, j'en veux pas, c'est une foule haineuse, et je vais les réprimer ». Il n'a pas fait un discours de chef d'État de tous les Français. Donc, il y a eu une... Première ministralisation du président de la République, et ce que disait Borloo à propos de Sarkozy, ben voilà, nous avons quelqu'un qui a dû se faire élire président de la République pour devenir Premier ministre. Ces institutions sont quelque part à l'abandon.
Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis renversement de ce dispositif?
Alors, parce que il est arrivé au bout, ce dispositif.
Tu parles de la cinquième?
Oui. Mais non, je parle du système, de cette espèce d'oligarchie plutocratique. Qu'est-ce qui s'est produit avec l'élection de Macron, l'élection surprise de Macron, etc. Il s'est produit, donc il a été élu contre Marine Le Pen. Il a ensuite, l'Assemblée, elle est arrivée à échéance aussi. L'Assemblée, les gens sont complètement démobilisés. On a eu des taux d'abstention qui sont incompatibles possible avec un fonctionnement démocratique, c'est pas sérieux. Et on a, comment dire, une chambre qui est composée de gens qu'on s'est fait livrer par Amazon Premium, quoi. Enfin, c'est extraordinaire, des CV. On y a mis des gens, soi-disant de la société civile, où on a vu la malléabilité du salariat, etc. On a vu des gens qui sont venus et qu'il a été très, très facile de mettre en coupe réglée. Donc, ce système est complètement vicié, parce que quand Étienne dit aujourd'hui, on n'a pas de moyen de s'y opposer, c'est parce que ce système a été complètement vicié. Moi, je me rappelle qu'il y a eu des grandes batailles où, quand même, je veux dire, il y a eu sur le moi, je ne me rappelle plus.
Donne-moi l'institution qui permet de résister là-dedans, dans la Constitution d'origine.
Là, je parle politique. Je pense que Villepin se voyait président de la République, il s'est fracassé sur. Alors, le CJ, je ne sais plus quoi, hein, le contrat jeune, machin, etc. Il sait, comment est-ce qu'il s'appelait
le SMIC jeune.
Oui, parce que il y a eu des batailles politiques importantes, etc., qui ont permis par l'utilisation du droit de manifestation,
Il n'y a aucun mécanisme juridique qui donne de la puissance à la manifestation. Regarde, aujourd'hui, tu tombes sur des gredins qui n'ont pas d'honneur, ils se foutent de l'an 40 de nos manifestations, ils nous tirent dessus même à tir tendu. Donc,
c'est tout le problème.
Rien pour résister,
c'est
là.
Tout le problème aujourd'hui, celui du coup d'État de 2017. Je suis désolé.
C'est en 58 que nous avons été tenus à l'écart.
Non.
C'est
dans je veux dire, les élections des présidents précédents ont été acceptées par les Français. Cette élection-là, c'est un coup d'État.
D'accord. Je suis d'accord avec ça.
Donc on lutte contre un coup d'État. Et après quand on aura remis, je veux dire, à bas ce système. Je dis pas il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je pense que ça passe par le départ d'Emmanuel Macron. La dissolution de l'Assemblée nationale, aucune chance. Ça passe par le départ d'Emmanuel Macron.
Je te garantis, tu vas pas avoir une autre crapule à la place. Tu vois, c'est pas une question de personne, c'est une question d'institution. Ce sont les institutions qui ont amené Macron.
Qu'est-ce qui me garantit? Donc, il faut que Macron s'en aille, et le lendemain, on fait la constitution que tu proposes. C'est pas comme ça que ça peut se passer. On a un système Macron, qui est le reflet d'une organisation économique, hein, et il est clair que on arrive d'ailleurs en fin de, parce que ça se passe dans tous les pays d'Europe, ce retour des peuples. Donc, on peut pas imaginer de devenir constituant avant d'avoir mis ce système-là à bas. On peut pas. Enfin, je vois pas comment on peut mettre des pansements sur des jambes de bois.
Oui, d'accord. Il faudra que Macron s'en aille. Mais si tu veux, c'est pas l'objectif. C'est juste une étape.
Oui, mais après. Après l'émancipation, effectivement, se débarrasser de ce système qui est antidémocratique, qui est par certains côtés dictatorial.
On parle de la cinquième.
Porte atteinte aux libertés. La cinquième, dans son côté paroxystique, d'une cinquième totalement démolie par des réformes, etc.
Je te suis pas là.
Il faudra qu'on fasse une émission là-dessus. Mais le problème, c'est que moi, je veux dire, je vais être un peu brutal. Je veux dire, tant qu'on n'a pas réglé la question politique qui s'offre à nous, c'est-à-dire, c'est quoi la question politique aujourd'hui? C'est extraordinaire quand même. C'est qu'on a un président qui représente 16% des inscrits déjà au départ. On a un président qui a 70% de la population contre lui, qui aujourd'hui tout le monde fout le camp, les ministres s'en vont, qui n'embraye plus, hein, qui envoie l'armée sans prévenir le chef d'état-major général qui l'apprend par la presse, etc. On est dans une situation, mais ubuesque.
Oui, mais tout ça, c'est des conséquences d'une impuissance politique qui est programmée
depuis longtemps. C'est des conséquences d'une crise
politique. Il faut que tu prennes le truc à la racine.
Mais je ne dis pas le contraire. Donc, si aujourd'hui, tout ce dévoiement depuis François Mitterrand en 83, tout ce dévoiement, cette pourriture qui a complètement gangréné le système.
Bien avant Mitterrand, quand Giscard nous condamne à la dette, c'est Giscard qui déclenche le début de la dette publique, hein, 74, le premier budget en découvert. La dette publique, c'est le résultat de découvert, de vote, de budget déficitaire. C'est-à-dire que l'État vote une loi de finances dans laquelle nous dépensons plus que nous ne gagnons. Ça fait 40 ans que ça dure. C'était bien avant Mitterrand.
La grande trahison, c'est que les gens en 81 votent contre ça. Giscard est battu. C'est cette trahison-là qui est une trahison qui relève de beaucoup de mécanismes. Il y a l'horizon européen, il y a la disparition des grandes idéologies. On ne va pas revenir là-dessus, ça prendrait trop de temps. Ce que je veux dire, Et c'est pour ça que je parlais de ce livre, donc, dont j'incite à la lecture, c'est que, effectivement...
Qui a écrit ça
Scott, il s'appelle. Scott, je ne me rappelle pas de son... Ça s'appelle Homo Domesticus.
Ça me fait penser à Sapiens, hein. Ça
oui, mais c'est beaucoup mieux que Sapiens.
C'est beaucoup mieux. Ah oui, oui, oui.
Ah non, la première partie est bien, mais la deuxième partie est plus maintenant. La
première partie voilà. C'est formidable.
Oui, bah alors ça, ça va plus loin. Ça va plus loin.
Et après, ça devient détestable. Enfin, super dangereux, quoi.
Oui, oui, oui. Non, nous sommes bien d'accord. Donc, son suivant, Hariri. Harari, je sais
Harari.
Pas. Harari, pardon. Non, c'est ça, bon, celui-là.
Donc,
non,
c'est James Scott. Voilà. James Scott aux éditions La Découverte.
C'est vraiment.
C'est pas celui qui avait écrit Zomia, Scott, un super bouquin, Zomia sur l'histoire de ces populations qui résistent à l'État.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Et
il en parle.
En Thaïlande, oui, enfin, oui. Du côté de la Thaïlande, la Birmanie, oui. T'as des peuples qui résistent à l'État,
qui bougeaient,
qui reculent dans les montagnes, et puis qui, en fait, à chaque fois que l'État arrive pour les domestiquer, ils fuient avec leurs plantes. C'est-à-dire qu'ils déplantent. Ils ont des plantes qui acceptent ça, les plantes qu'ils mangent. Hein. Ils les déplantent, ils les emmènent avec eux, ils sont capables de se déplacer avec leur culture.
Ah non, c'est lui.
Pour résister à l'État.
C'est bien lui.
Oui, ce livre dont tu parles, Étienne, c'est Zomia, ou l'art de ne pas être gouverné.
C'est tout à fait enthousiasmant.
Bon,
alors attendez.
Je termine, voilà. Didier. Je termine, c'est que je suis tout à fait ouvert à tous les débats. Surtout que nous sommes au 21e siècle maintenant, que effectivement le droit constituant, il a toute une histoire, mais je dis, il faut qu'on se débarrasse avant de ce système. Et comment fait-on ?
Alors, justement, on arrive sur la deuxième question de Didier, justement. Comment est-ce qu'on institue le RIC ?
Les gens s'impatientent. Tout le monde est à peu près d'accord sur le diagnostic.
Alors, je voudrais soumettre...
Comment on met en place le RIC ? C'est la question qui revient. Quel est le point de départ ?
Je voudrais soumettre l'idée que je propose à votre esprit critique. Et je voudrais voir à quel endroit est-ce que je me trompe, est-ce que ça peut se passer comme ça ou pas ? Il me semble que dans l'histoire des hommes est faite d'insurrections contre les mauvais traitements. Les êtres humains n'arrêtent pas de s'insurger contre les tyrans du moment. Donc ça va arriver, ça va péter. Je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quel prétexte, mais c'est sûr qu'on va s'insurger comme tous les peuples du monde.
On est déjà insurgé.
Voilà. Enfin, c'est encore
depuis le mois de novembre.
Oui, mais c'est doux encore. En tout cas,
pas la majorité encore.
Alors voilà.
Non, mais la question centrale que tout le monde se pose. Non, mais déjà. Bon, on est tous d'accord sur le diagnostic, 16% des inscrits, quelqu'un qui n'a pas d'empathie, qui ne voit pas la crise, qui n'a pas les solutions pour les arrêter, les rats qui quittent le navire.
L'ennemi du peuple.
Bon, moi je ne le qualifie pas, je suis factuel. Bon, disons ça comme ça. Comment aujourd'hui, on passe à autre chose, et comment on a l'assurance, effectivement, de ne pas reproduire ? Parce qu'on entend bien, c'est les discours politiques, il y a des gens qui émergent, etc. Mais depuis 40 ans, finalement, on est de plus en plus pauvres. On perd de la souveraineté et chaque fois on nous fait le coup, la fracture sociale, travailler plus pour gagner plus, l'ordre mais l'ordre juste, etc. Je peux vous dire tous les slogans et on est de mal en pire, de carrément si là, on est de plus en plus pauvre et il y a un doute, c'est plus qu'un doute aujourd'hui, il y a une défiance absolue de tout ce qui est représentatif. Donc on a fait tabula rasa, mais qu'est-ce qu'on propose ? Parce que c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron, tabula rasa, avec son livre Révolution, il a balayé la table. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il n'y a plus de corps intermédiaire, mais est-ce que, finalement, on ne va pas reproduire sans cesse le même système et comment on en sort ? C'est ça la question centrale que tout le monde se pose.
Mais à mon avis, il faut revenir...
Est-ce que ça peut se faire de manière pacifique ?
Oui.
C'est ce que les gens disent aussi.
Alors, mais je voudrais soumettre cette idée. Alors, justement, moi je cherche la cause de cette impuissance, la cause de ce piège politique, économique et social qui fait que... C'est pas qu'on a l'impression, on voit bien que nous ne sommes pas représentés, que les banques sont représentées, que les multinationales sont représentées, mais nous ne sommes pas représentés. Comment on fait pour sortir de ce piège sans que ça recommence, quoi ? Et l'idée de devenir constituant, c'est avant que l'insurrection ait lieu, pour que quand l'insurrection aura lieu, nous soyons prêts. Dès aujourd'hui, nous devrions nous entraîner à écrire d'autres règles de la représentation. Nous, les représenter. On est quand même dans un régime de liberté, on est quand même dans un régime dans lequel on peut parler, on peut se parler entre nous, on a encore, enfin il n'y en a pas encore, on n'est pas en tyrannie, en dictature complète, donc on a les moyens de devenir constituant, c'est-à-dire de se préparer à la base, on n'a pas besoin des élus pour ça, on n'a même pas besoin des médias, entre nous avec nos réseaux sociaux qui nous interconnectent, nous devrions nous entraîner à écrire d'autres formes de la représentation, dont j'ai donné la liste là, en début de première heure. Et donc, choisir la procédure de désignation, fixer les mandats, quelle durée, quel renouvellement, quel salaire pour les élus, quel privilège, comment on contrôle les représentants, est-ce qu'on les contrôle en permanence, est-ce qu'on les contrôle par intermittence, est-ce qu'on les contrôle par RIC, comment on les empêche de nuire, comment on les révoque, est-ce que c'est par RIC, ou bien est-ce qu'il y a une chambre de contrôle du respect des mandats, comment on fixe les sanctions, qui fixe les sanctions. Toutes ces règles-là, nous devrions nous entraîner à les écrire. Puisque, manifestement, dans aucun pays du monde, quand ce sont les élus qui écrivent ces règles, parce que c'est comme ça que ça se passe pour l'instant dans tous les pays du monde, les constitutions sont écrites par des professionnels de la politique. Donc c'est factuel, ça. C'est toujours des assemblées constituantes élues, et donc toujours parmi des candidats qui sont présentés par des partis, et ce sont des professionnels de la politique qui, toujours et partout, écrivent des constitutions. Et le résultat, c'est manifestement, il n'y a pas de vrai contrôle. À chaque fois, le peuple est tenu à l'écart, à cause, je pense, du conflit d'intérêts dans le processus constituant. Donc si... Alors, pour répondre à la question, j'imagine, je vous présente la situation de façon idéale, et il y a peut-être un vice quelque part. Il me semble que... imaginez, les ateliers constituants se multiplient. Dans toutes les communes, il commence à y en avoir, c'est déjà le cas d'ailleurs, chez les Gilets jaunes, ça se multiplie, les ateliers constituants, ils sont en train d'apprendre à écrire le RIC eux-mêmes, mais il faut que ça dépasse le RIC, il faut qu'ensuite, après avoir institué le RIC, il faut qu'ils instituent des règles sur les médias, des règles sur la monnaie, des règles sur les juges, des règles sur la police, les forces armées, comment on contrôle tous les pouvoirs. Imaginez que ça se passe, ça y est, nous sommes des millions un peu partout, de façon insaisissable, incontrôlable, c'est bordélique, mais avec une idée centrale, nous nous entraînons à écrire nous-mêmes les règles, nous les représentés, qui ne voulons pas du pouvoir, nous nous entraînons à écrire les règles de la représentation, la liste que je vous ai donnée. Et on dirait que ça y est, nous sommes des millions. À mon avis, ce qui va se passer, si nous sortons dans la rue, non pas à 500 000 comme aujourd'hui, ou 1 million, si nous sortons à 3 ou 4 millions, c'est pas les Champs-Élysées qui sont pleins, c'est comme au Caire, c'est toutes les rues de Paris qui sont noires de monde. À mon avis, dans cette situation, alors on n'y est pas encore, on n'est pas encore assez nombreux, à mon avis, c'est ça à quoi il faut arriver. Mais imaginez que toutes les rues de Paris soient pleines de gens qui sont venus de partout en France et qu'ils soient pas dispersés sur ce qu'il y a à faire. Ils savent que ce qu'ils veulent, c'est écrire eux-mêmes les règles de la représentation. Parce qu'ils en ont marre d'être trahis par les représentants, c'est pas aux représentants d'écrire la... Imaginons ça. Est-ce que je me trompe quand je dis que peut-être que dans un pays tyrannique, ça se passerait différemment parce que la police est capable de tirer même sur le peuple tout entier, est capable de mettre en prison tout le monde. Ok, dans certains pays, c'est comme ça. Les policiers et les gendarmes et les militaires sont des brutes épaisses capables de tirer. Mais ce n'est pas le cas en France. L'idée que je me fais en France de la police et de l'armée, c'est que dans une situation pareille, eh bien, ils arrêtent de protéger j'allais dire avortons, c'est méprisant. Ils arrêtent de mépriser les Macron et ses sbires qui sont des mafieux. Ils lèvent les casques, alors, ils lèvent les crosses.
Ça, c'est mieux comme expression. Il dit avortons, c'est sympa, puis il dit mafieux derrière.
Mafieux à la place. c'est pas physique, quoi, je veux dire. Mais donc, mais parce que...
Oh bah si, on imagine les chaussures bicolores, on imagine tout ça.
Bon, en tout cas, est-ce que je me trompe quand je dis que l'armée et la police française, dans une situation où toute la population, pas toute la population, mais une énorme partie de la population, convergeant en ayant une volonté générale claire, nous voulons instituer nous-mêmes les règles de la représentation, donc on veut éjecter bien sûr le pouvoir en place, mais pas pour mettre à la place une assemblée constituante élue, mais une assemblée tirée au sort, ou bien c'est nous qui écrivons directement les règles, mais en tout cas on veut participer au processus constituant. Est-ce que je me trompe si je dis que, d'abord, est-ce que c'est vrai que la police et l'armée vont enlever leurs casques et lever les crosses, et à ce moment-là, le pouvoir ne tient qu'avec la police. S'il n'a pas la police et l'armée, le pouvoir, il s'en va pacifiquement. C'est ça mon idée, c'est qu'il faut que nous devenions nombreux avec une volonté polarisée. Et c'est pas séditieux ce que je dis. Si le corps social veut ce changement, c'est quand même légitime qu'il obtienne le changement
Régis,
qu'il veut.
Est-ce qu'il faut atteindre un certain... Est-ce qu'il y a finalement plusieurs phases? Est-ce qu'il y a une première phase de contestation? Est-ce qu'il faut être un certain nombre, etc., pour que le pouvoir se remette en question, fasse une dissolution, je ne sais pas, prenne un...
Dissolution, ça change rien.
Fasse un acte fondateur, ou je ne sais pas, réagisse, pour ensuite aller dans une deuxième phase, la constituante, etc.
Je crois que l'insurrection, elle a commencé. Je veux dire, c'est quand même, ça fait 4 mois, je me rappelle très bien de mai 68, ça fait 4 mois que le peuple français regimbe, vient, il y a 15 jours, les violences sur les Champs-Élysées, qui a tout relancé. Oui. C'est pour ça que la question de la
le
violence...
Le pouvoir dit, il n'y a personne, il y a 40 000 personnes
oui,
en France.
Et voilà, c'est quand même un argument, ça. Non, c'est vrai qu'on n'est pas assez nombreux.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que le et puis les études sont là pour démontrer que ce pouvoir est minoritaire. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ce pouvoir...
A été élu et qu'il est légitime.
Non, il est illégitime pour moi, mais il
est légal.
Il est légal. Hein, c'est tout le problème de différence entre légalité et nullité.
Voilà. Je fais un peu l'avocat du diable. Sinon.
C'est nul si le contrôle, non, si le juge l'a déclaré. Mais il y a plein de décisions illégales qui continuent à produire des effets. Bon.
Donc il est légal et illégitime. Mais il est légal.
Alors le problème qui se pose, effectivement, on a une insurrection assez considérable à l'étranger. Moi j'ai des échos, aux États-Unis, j'ai
dans le monde entier, j'ai les amis qui reviennent d'Inde.
Les gens ils disent mais qu'est-ce qui se passe?
Yellow jacket.
Je rappelle quand même que la police, on lui a dit frapper, réprimer, c'est-à-dire que le président a dit il n'y aura pas de solution politique, il ne l'a pas dit dans ces termes, il n'y aura pas de solution politique, hein, et on va rétablir l'ordre par la répression. Déjà, la police, elle a fait son boulot, jusqu'au vidage de Delpech, qui avait demandé qu'on arrête d'utiliser aussi brutalement les LBD, ce qui est aussi un signe. Il y a quelques signaux faibles qui montrent. La justice, mais jusqu'à ce moment-là, hein, quand on voit les films, les bacs, etc., hein, ils ont été odieux.
Mais on ne peut pas généraliser ça à tout le corps de la police. C'est une poignée de dingues qui nous tirent
dessus.
Mais
une poignée de dingues, les mecs, ils ont marché, les syndicats ont poussé des hurlements. Moi, je suis désolé, la police française, elle a perdu son crédit pour très longtemps, la police républicaine. Deuxièmement, hein, et ça c'est un de mes chevaux de bataille, moi, une justice que je pratique depuis 46 ans et que j'espérais beaucoup plus impartiale, parce que c'est le terme d'impartialité qui est important, hein, c'est pas le terme d'indépendance, c'est impartialité.
Tu parles de la justice,
hein, je parle de la justice, hein, qui aurait dû avoir le sentiment qu'elle devait rendre la justice, ben non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a obéi aux ordres, elle est allée au-devant des ordres, hein, et elle a voulu rétablir l'ordre. C'est honteux ce qui s'est passé en France, la façon dont le corps de la magistrature s'est déshonoré.
Tu peux détailler, s'il te plaît?
Mais détailler, je veux dire, c'est tous les jours qu'on apprend...
Il y a plein d'exemples, c'est important.
Mais qu'on apprend que tel a été mis en garde à vue...
D'abord, si on résume...
Tel gilet jaune a été mis en garde à vue préventivement...
Non, mais il y a des interpellations...
Mais ça, c'est une infraction pénale.
Des interpellations préventives...
De mettre en prison quelqu'un.
Non, et on a utilisé massivement. Enfin, écoutez.
Non, mais interpellation préventive, il faut peut-être récapituler.
Voilà, interpellation préventive.
Peine délirante dans leur quantum. Voilà. Délirante par rapport aux infractions effectivement commises.
Mise en examen avec impossibilité.
Incrimination fantaisiste. Le type qui s'accroche à un... rébellion, parce que quand les flics ont voulu le foutre par terre, il s'est accroché à un poteau. Hein. Outrage à ministre, Castaner, assassin. Je n'ai
t-shirt,
jamais vu ça.
T-shirt, machin, etc. Il y a un débat là-dessus, les gens disent qu'il a été arrêté parce qu'il est dans le mauvais périmètre. Mais enfin, j'ai dit dans un tweet, s'il avait écrit « Vive Macron » sur le t-shirt...
6 mois de prison ferme pour partage de page Facebook. 6 mois de prison ferme pour partage de page Facebook. Quand j'ai un ministre de la Justice et un Premier ministre qui viennent à l'Assemblée nationale en disant 6000 arrêtés, c'est-à-dire qui fait la pratique des quotas, comme dans d'autres pays, hein, où le NKVD demandait... Hein, 6000 arrestations, 400 personnes en détention, tout ça en 4 mois, c'est pas possible de le faire dans le respect des règles, ça n'est pas vrai. Et je dis qu'une justice qui se laisse revendiquer comme un triomphe le fait d'avoir foutu 400 personnes au trou, hein, et d'avoir fait 6000 procédures, les canuts c'était 8000, hein, les arrêtés.
Régis,
nous c'est 6000.
Une incise sur le sujet, pour une fois, dans l'acte 19, les chaînes d'infos étaient là, parce qu'il y avait des policiers partout, elles ont compté les gilets jaunes, arrêtés. Et donc, on a eu tout au long de la journée le fait d'égrener comme ça un petit peu. Trois arrestations, 4 arrestations, 10 arrestations, etc.
Qui faisait ça? Les gilets jaunes?
Toutes les chaînes d'infos. Les journalistes qui étaient là, soi-disant sur le terrain. pour une fois, ils étaient là. Moi, d'habitude, pendant 18 actes, je ne les ai pas vus. Là, ils étaient là. Et ils ont compté les gilets jaunes. Alors, pour une fois, les gilets jaunes... Arrêtez. Ben oui, on peut les compter quand ils sont derrière les barreaux.
Ah oui, quand ils sont... Non, mais vous avez... Et puis, dans le même temps, en parallèle, et ça, c'est très important, en parallèle, cette justice protège le pouvoir. Monsieur Haïts refuse de poursuivre Monsieur Bayrou, alors qu'il a poursuivi Marine Le Pen et... comment il s'appelle, Jean-Luc Mélenchon pour la même chose. Monsieur Ferrand est tranquille. On a localisé son affaire. Enfin, il y en a des exemples comme ça. Et donc, ce pouvoir est protégé par la justice.
Est-ce qu'on n'a pas... Tout à l'heure, fais-moi penser, très courte incursion, il faudra qu'on écrive un article qui l'interdise. De l'article de la Constitution qui permette de mettre en cause la justice quand elle est pas juste.
On
est d'accord. Le principe de la justice, c'est qu'on ne peut pas être jugé pour la décision qu'on a prise, sauf si, effectivement, on a... commis une infraction à cette occasion, comme monsieur le procureur qui dit « gardez-les, ce qui est détention arbitraire, puni de 10 ans de prison dans le code pénal hein. ». Donc, la justice et les magistrats violent la loi... Eux qui sont chargés de la faire respecter, pour moi, c'est la pire des corruptions. Ce que j'ajoute là-dessus, c'est qu'il y a des procédures de mise en cause de la responsabilité. Seulement, comment ça fonctionne? Le Conseil supérieur de la magistrature est complètement entre les mains des magistrats eux-mêmes, c'est du corps qui se protège.
Il y a un conflit d'intérêts. Les gens ne peuvent pas se juger eux-mêmes.
Entièrement d'accord. Moi, je suis pour un Conseil supérieur de la magistrature. Quand j'aurai été désigné garde des Sceaux, je demanderai qu'on crée un Conseil supérieur de la magistrature où il n'y ait pas un magistrat.
Et voilà.
Pas un magistrat.
Ça, il faut l'écrire dans la Constitution.
Je prenais ces exemples, c'est que je pense que cette présentation que tu fais, quand on sera effectivement une vague, un tsunami capable de déferler, on pourra régler le problème, on aura créé le rapport de force. Ça ne marche pas comme ça, à mon avis. Pourquoi ça ne marche pas comme ça?
C'est comme ça que les révolutions fonctionnent. Les révolutions ne fonctionnent que quand la police et l'armée se mettent du côté du peuple. Il n'y a pas d'exemple de peuple qui se met en travers de son armée. Il y a toujours l'armée qui se met avec nous. La commune, c'est quand l'armée s'en va. Hein.
Oui, mais elle revient. Hein. Et comment
mais oui, non, mais d'accord.
Je pense que la question du rapport de force, et puis aussi, c'est que, je veux dire, les gens qui ont ces instances de contrôle, qui représentent des milliers de personnes, qui sont ces couches qui soutiennent tous ces bourgeois qui voulaient voter Fillon et qui ont rallié Macron, et puis qui étaient repartis, qui sont revenus par peur, parce qu'on les a excités, par peur de... Le bourgeois apeuré, c'est une figure qui existe. Les contradictions au sein...
François Bégaudeau en parle très bien. Hein.
Pardon ?
François Bégaudeau en parle très bien là, dans son dernier bouquin.
Hein. Donc, le rapport de force, à mon avis, construire tel que tu le décris, j'y crois pas trop.
Comment on fait autrement ? Attends.
À ce stade, je vous propose de faire un point sémantique. Emmanuel Macron a écrit un... Parce qu'on parle quand même un mot qui revient assez souvent, c'est le mot révolution. Emmanuel Macron a écrit un livre juste avant son élection qui s'appelait Révolution. Il a fait sa révolution, il a tourné sur lui-même, il a fait En Marche. Bon, c'est une forme de révolution. Elle était plutôt verbale et conceptuelle. Étienne, vous parlez de révolution. Oui. Vous allez nous expliquer, selon vous, comment est la révolution. Et Régis aussi n'a pas prononcé le mot, mais d'une certaine manière, dit, en fait, il a parlé d'insurrection. Donc, à quel niveau il faut être, j'allais dire, dans de niveau de maturité dans la population française pour que les choses basculent? Parce que là, quand même, les gens peuvent avoir peur, l'armée, la police, etc. Vous appelez à une révolution pacifique, c'est ça ou...
Mais oui, absolument, voilà. Pacifique. Et il faut...
Il faut quand même préciser les choses, parce que les mots sont forts.
Si les choses se passent comme ça, nous allons avoir besoin d'une constitution transitoire, une constitution provisoire, pour exécuter les affaires courantes, expédier les affaires courantes pendant la période où il va y avoir le processus constituant. J'ai un homonyme qui s'appelle Yves Choix, on n'a pas la même famille, mais qui travaille depuis 10 ans à cette constitution provisoire. Et elle est tout à fait intéressante. Il faudrait qu'on consacre une émission avec lui pour la travailler et voir quels sont les, quels sont ses parties, ses caractéristiques, pourquoi ils ont écrit ça et ça, et voir si ça nous conviendrait. Ça va être très intéressant, ce truc-là. Nous allons avoir besoin, si vous voulez, la police et l'armée, elles sont très légalistes. Elles ont besoin d'une référence légale à quoi se raccrocher. Elles peuvent pas accepter le chaos. Elles empêcheront le chaos, c'est leur boulot. Mais si nous préparons la transition avec une constitution provisoire comme celle qu'a préparée Yves, on va améliorer les chances. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait penser que ça n'arrivera
Moi,
pas
Je dis
l'augmentation de la conscience.
Mais si on en a beaucoup rêvé au XXe siècle, hein,
de ce mouvement
majoritaire. Moi, ce que je vais prendre une hypothèse. En décembre, je pensais qu'il y aurait peut-être une dissolution de l'Assemblée nationale pour trouver, du point de vue du pouvoir, de trouver une solution à la crise. Les grands intérêts voient que le choix qui a été fait n'est pas celui-là. Donc je pense aujourd'hui que la seule solution politique à cette crise est le départ d'Emmanuel Macron. C'est qu'il y a quand même dans ce pays... Hein, des grands intérêts qui souhaitent que le règlement politique de cette crise. Qu'est-ce qui peut se passer? Je ne sais pas si ça va se produire de cette façon-là. Moi, ce que je vois, j'essaye, il y a les petits signaux faibles, etc. Ce que je vois, et c'est là, après je te pose la question, c'est une hypothèse qui peut se produire. Je pense qu'un de ces quatre matins, l'organe habituel de la délation, c'est-à-dire Mediapart, produit, une fois de plus, quelque chose qu'on lui a remis, hein, comme avait fait Le Monde avec l'affaire Benalla. Tout ça est parfaitement téléguidé, et on a des choses qui sont tout à fait inassumables par le président de la République. On apprend ce qu'il y avait dans le coffre de Benalla, on apprend un certain nombre d'autres choses, etc. Et là, ça devient intenable, hein, et ses amis, Jouyet, etc., hein, et Bolloré, Arnaud et compagnie, lui disent « ça suffit, fin de partie ». Bon, il démissionne. Admettons, c'est une dystopie que je suis en train de faire. Hein. Il démissionne. Qui c'est qui vient à l'Élysée? C'est Gérard Larcher. Gérard Larcher, il fait comme Poher en 69, il se présente. Il a des bonnes chances d'être élu, parce que, je veux dire, on se dit, bah, enfin, quelqu'un qui arrive.
Poher, ça n'a pas bien marché. Hein.
Il a pas fait un si mauvais score,
il n'a pas été élu.
Faut voir qu'il avait en face aussi. Ouais. C'était encore l'élan du gaullisme. Donc je sais pas.
Larcher, c'est encore un voleur de pouvoir. Pour
l'instant, je porte pas de jugement moral ou de s'il est gentil, il est pas gentil, hein, ou c'est un voleur ou ceci ou cela. Il arrive parce que la constitution qui s'applique dans la République française pour l'instant, aussi mauvaise soit-elle et aussi souhaitable soit-il de la virer, hein, c'est donc Monsieur Larcher. Monsieur Larcher, il est président par intérim et il doit organiser les élections, il y a un délai, et il dit je me présente. Ok. Eh bien, moi, je pense qu'il y a peut-être hein, des chances qu'il soit élu dans cette espèce de bordel dans lequel on va se retrouver. Mélenchon va faire 5% parce qu'il est complètement à la ramasse. Hein. Comment il s'appelle? Benoît Hamon va faire 1,5%. Brossard-Reluire va faire 1,5%. Glucksmann va faire 2, etc. Donc, je veux dire, il aurait, à ce moment-là, probablement un boulevard. Qu'est-ce qu'il fait? Il nomme Wauquiez ou un autre Premier ministre.
Je vous dis ce qui peut se produire.
Si les grands intérêts disent fin de partie, erreur de casting, on n'en veut plus.
On change de cheval,
hein, on va essayer de sauver les meubles. C'est probablement ce qui va se passer, peut-être pas. Donc à ce moment-là, hein, je dis, Larcher peut devenir président de la République, à mon avis il se prépare, moi je sais ce que j'ai entendu dire, parce qu'on a tous des petits capteurs hein, qui vont dans ces milieux-là, hein, et il nomme Wauquiez ou un autre Premier ministre. Et il organise les élections législatives à ce moment-là. Il dissout l'Assemblée et il organise les élections législatives. Et il y a une majorité LR qui arrive au
C'est clairement la stratégie choisie par LR, quand on lit.
Mais c'est clair. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est... Voilà, c'est... Non,
c'est non, mais... quoi, enfin, on est non, toujours mais... dans la même merde, quoi. Hein, c'est
mais
vraiment,
mais
c'est
évidemment affreux, quoi. Bon. Évidemment. Donc là, je te pose la question, Étienne. Ce que je décris n'est pas stupide. C'est une hypothèse qui est plausible. Moi, bien évidemment, je préférerais... À l'âge que j'ai, ça fait 55 ans que j'attends la révolution. Les Gilets jaunes m'ont fait un joli cadeau hein, au moment de Noël cette année. Hein, j'ai une belle chose et j'ai pu ressortir les drapeaux. Pour moi, c'est le dernier qui chante qui a raison. Hein, et donc, je suis très content. Mais...
Je te signale qu'ils sont en train de devenir constituants. C'est-à-dire que chasser de leur
rond-point,
ils sont en train de faire ce que je te décrivais tout à l'heure.
Ce que je veux dire, moi je la souhaiterais, je la souhaiterais, je souhaiterais qu'on passe une phase importante et qu'on aborde, et je suis tellement fier pour la France qu'on envoie un message, qu'on sait...
Nous, on s'émancipe par nous-mêmes, on est un peuple, qu'on n'a jamais fait.
On est un peuple de réajustement brutaux, hein, avec des qualités qui peuvent se révéler dans certaines circonstances, des défauts. J'en rêverais, mais je suis réaliste. Et donc, je dis, cette sortie de crise qui prend des proportions extraordinaires...
Mais qu'est-ce qui est irréaliste dans le scénario que je t'ai décrit? Qu'est-ce qui est irréaliste dans le scénario que je t'ai décrit? C'est que nous nous préparions souterrainement, nombreux,
c'est l'effet déclencheur. Je pense qu'il y a deux points d'achoppement. Alors, il y a l'effet déclencheur. Si je relaie un peu ce qui se dit là sur les questions, bon, j'ai fait un peu un oxymore tout à l'heure, je parlais de révolution pacifique. Et alors, je mets ça en perspective, et je ne veux pas qu'on m'accuse d'appeler à la révolution, hein, mais ça fait un certain temps que je marche avec les Gilets jaunes, et je vois qu'il y a une porosité aujourd'hui, et il y a de plus en plus de gens qui marchent, qui disent, bah oui, mais s'il n'y a pas un peu de violence, on n'est pas entendu, et les révolutions, ça se passe toujours comme ça, et si on est trop gentil, ça va recommencer, on va nous lâcher un milliard par-ci, etc., on n'en verra jamais la couleur. Comment on répond à cette... insurrection qui monte, à cette colère, même s'il n'y a pas des millions de gens dans les rues, ça c'est clair, mais on voit que le soutien populaire, nous faisons beaucoup de sondages régulièrement, etc., il est toujours là. Il y a quand même, effectivement, les 83%, 84% de Français inscrits qui n'ont pas voté pour M. Macron au premier tour, ils ne se sont pas volatilisés, ils sont toujours là. Comment on fait, aujourd'hui, pour passer à autre chose sans qu'il y ait trop de casse, quoi? C'est ça la question, parce que les Français qui suivent là et qui regarde, ils disent, bon, mais tout ça, c'est bien beau, mais si on le chasse, si ça marche pas, si dans le coffre de Benalla, on découvre quelque chose, il va y avoir son successeur qui va être son clone. Et on va repartir... voilà.
Non, ce sera un autre rapport de force. Et ce sera moins facile.
Et après, Étienne.
Non, mais moi, juste, ce que je veux dire... Étienne est catastrophé parce que je parle d'hypothèses qui ne sont pas celles que je souhaite, évidemment. Hein, moi, la question de la révolution, c'est-à-dire passer à quelque chose d'autre, vraiment, hein, et puis d'envoyer un message au monde, j'aime bien, moi. Regardez, ben nous on n'a pas fait comme les Italiens, on n'a pas fait comme les Hongrois, voilà comment les Français, on veut faire. Et l'idée, elle est magnifique, cette idée du fait que ce soit à la base, parce que il n'y a que 50 000 personnes dans les rues. Moi, je suis désolé, je n'ai jamais vu, hein, parce que j'ai assisté à des mouvements, etc., en plus des activités internationales, je veux dire, il y a aujourd'hui un peuple, majoritairement, j'allais dire un peuple entier, qui dit « on ne veut plus de ce type ». C'est quand même ça l'histoire. C'est quand même extraordinaire. Alors, attention, oui, là, on n'en est pas à la prise de conscience.
On en est aux conséquences, là. On en est sur l'écume. Macron, c'est une conséquence d'institutions qui nous condamnent à Macron. Oui, si on n'a pas Macron, on aura Macron B, quoi.
Oui, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas faire monter tout ça. Oui. Mais je pense que je suis de l'avis de Didier, hein, et puis après, je te repasse la parole. Je pense qu'on n'échappera pas à un moment révolutionnaire, maintenant ou pas. Hein. Je veux dire, là, on a une accélération de l'histoire quand même. Moi, c'est pour ça que j'aime bien relire de temps en temps tout ce qui relève de la Révolution française, c'est-à-dire que quand Louis XVI avance d'un an les États généraux, que les États généraux se réunissent, se transforment, ouf, tout d'un coup, là, je veux dire, il y a un tremblement d'histoire colossal, une accélération fantastique.
Parce qu'en juillet 89, personne n'est
contre c'est le fou. Roi. Hein, je me rappelle, la France s'ennuie en mai 68, hein, je veux dire, ouf, tout d'un coup. Bon, donc là, moi je pense que peut-être que le précipité va prendre. C'est compliqué, je veux dire, la façon dont les peuples fonctionnent. Le peuple, c'est pas... moi, je ne suis pas réductionniste. Hein. Un peuple, ce n'est pas la somme des citoyens, c'est une entité particulière, distincte des gens qui la composent.
Comme un cerveau est distinct des cellules, des neurones.
C'est tous les gens qui la composent, plus un petit supplément d'âme, qui réagit, qui fait réagir le corps social.
Qui a son histoire, qui a ses valeurs, qui est enraciné, qui a ses contradictions et ses conflits. Hein. Mais c'est quelque chose. Alors si tu réussis à faire cette mobilisation autour d'une idée qui est effectivement une idée intéressante, très intéressante,
et qui peut être
qui peut être mobilisatrice. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vers quoi on amène les gens. Oui. Lénine, quand il prend le pouvoir, il dit la paix, le pain, la liberté. Voilà, il a ces trois mots d'ordre, surtout la paix, la fin de la guerre. Hein, et il arrive, alors qu'il est ultra minoritaire, hein, alors après il se maintient au pouvoir par d'autres choses, mais il arrive quand même à le prendre, ce pouvoir, sur cette base-là, avec un certain soutien. Donc, Je pense que le processus que tu décris, moi j'en rêverais. Mais je pense que ça ne va pas être si simple que ça à faire advenir. Hein.
Alors, le problème, c'est que sur une question, et ça va arriver souvent ça, hein, sur une question des gens qui regardent là, on s'est quand même pas mal éloigné de l'objectif qui était parler des règles de la représentation. Pendant que tu parlais des dysfonctionnements gravissimes de la justice, et où on s'apercevait que tu disais la justice qui devrait être impartiale, elle s'est mise à obéir aux ordres, et on a vu une
liste... Non, c'est pire que ça. La justice a... c'est très français, ça. La justice française a une très faible culture de la justice. Elle pense qu'elle est là pour maintenir l'ordre. Hein, c'est ordre, c'est la police, justice, c'est la justice. Et la mission de rendre la justice n'est pas celle de rétablir l'ordre. Ça, c'est fondamental. Et là, elle a basculé du côté de l'ordre. Ils se sont transformés en flics, nos amis magistrats.
Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté... Je vais prononcer un mot un peu aride. Est-ce qu'il y a, mais je vais essayer de le débarrasser de ses scories et de ses miasmes, on va dire. Est-ce qu'il n'y a pas un côté identitaire, au sens une perte d'identité du peuple français? Il y a quelqu'un qui pose cette question, qui dit « c'est pas Macron le fond de l'histoire, les Gilets jaunes, c'est pas un mouvement social, c'est une réaction, les mots sont forts, immunitaire, c'est des Français qui sentent plus ou moins clairement qu'on est en train de leur voler leur pays. » Est-ce que c'est pas aujourd'hui, être Gilet jaune et ce sentiment qu'ont les Gilets jaunes, d'avoir un système qui réagit contre les citoyens? Et c'est ça aussi, oui, le point d'achoppement.
Mais c'est très exactement ça. C'est-à-dire qu'on a c'est les grandes métropoles, les anywhere et puis les somewhere. Hein, c'est effectivement ce sentiment qu'on est en train de faire disparaître leur pays.
Cette France des assignés qui a été décrite, cette France sur le fil, cette diagonale du vide.
Ça n'est pas que ça, les Gilets jaunes. Ça n'est pas que ça.
C'est vrai. Mais en même temps, je vais vous
rappeler. Attention, en même temps, c'est.
Mais
c'est l'ancien monde.
C'est pas devenu interdit quand même.
Schrödinger.
En même temps, je vais vous ramener comme avec un élastique à la cause de tout ça. C'est-à-dire que oui, nous sommes en train, mais c'est littéralement ça, nous sommes en train de nous faire piquer notre pays par des agents, des ennemis du peuple. Mais je vous rappelle que nous n'avons aucun moyen de résister. Et nous étions précisément en train de parler des règles de la représentation. Et c'est comme s'il y avait un tropisme qui nous conduit à oublier d'être radicaux, de prendre le mal à la racine. Et tu vois, quand tu me parles de réaction identitaire chez les Gilets jaunes, on se fait piquer notre pays, c'est vrai, mais tu vois, on s'éloigne.
Oui, mais ce tropisme, je m'en fais le porte-parole, parce que comme la nature a horreur du vide, et que quand on a connu que ça, on va dans un inconnu, et il faut être, je pense qu'il faut être concret pour savoir par où démarrer, parce que c'est bien beau de vouloir changer de système. C'est bien beau de vouloir écrire une nouvelle constitution. Les Français qui demandent ont besoin. Par quoi on démarre? Comment ça marche? Et comment on institue notre puissance publique?
Alors,
nous-mêmes.
Justement, dans les particularités de cette heure, ce qui serait bien, de mon point de vue, c'est qu'on arrive de temps en temps, une fois ou deux ou trois, peut-être plus, si on s'habitue, c'est à écrire les articles de cette puissance. Et j'avais prévu plein d'articles, mais on les verra la semaine prochaine, sur les règles de la représentation. Mais je voudrais, à l'occasion de ce que tu as dit, Régis, sur la justice, je voudrais te lire, et je t'ai mis le bouquin pour que tu puisses le regarder, l'article du plan C, c'est-à-dire de la constitution d'origine citoyenne. On a réfléchi au contrôle de la justice et on a prévu l'institution d'une chambre de contrôle de la justice. C'est page 75 du petit bouquin jaune là. Et je vais te la lire, puis je vais la lire doucement pour les gens qui regardent, s'ils n'ont pas le bouquin. Donc l'article s'appelle « La chambre de contrôle de la justice ». Et dis-moi si j'ai oublié quelque chose, s'il faut reformuler, ou bien si l'idée même est saugrenue. Tu vois, enfin, on peut corriger ça ensemble. L'idée d'un atelier constituant, c'est qu'il y en a un qui vient, ça pourrait être toi, ça pourrait être moi, qui vient, ou l'un d'entre nous, qui vient avec une idée qu'il a eue, et puis ensuite on la débat, on la discute, on l'améliore.
Alors, allons-y.
Alors, la chambre de contrôle de la justice vérifie que les juges ne légifèrent pas. Ils ne sont pas en train d'écrire des lois. Les décisions des juges doivent interpréter les lois sans créer de nouvelles normes et en respectant la Constitution. Les juges professionnels ne peuvent en aucun cas être jugés par d'autres juges professionnels. Et quand la Chambre de contrôle de la justice veut incriminer un juge, elle convoque un jury de citoyens tiré au sort pour l'occasion.
Alors, moi, j'ai un premier problème.
Alors, vas-y.
J'ai un premier problème, c'est-à-dire que le juge, pas de jugement des juges.
Hein, on veut pas de gouvernement des juges. Pas de gouvernement des juges.
Pardon, pas de jugement des juges. Si, justement, jugeons les juges. Les décisions des juges doivent interpréter les lois sans créer de nouvelles normes et en respectant la Constitution.
J'explique en clair.
Oui, oui, mais qui vérifie ça? C'est la Cour de cassation. Hein, parce qu'il y a un processus judiciaire.
Et oui, mais les cours de cassation, c'est des juges.
Attends. Oui.
C'est des juges. Non, mais c'est un problème, ça.
Non, mais non, tu peux pas. Alors, dans ce cas-là, tu fais pas la justice. Tu dis la justice, elle est rendue par un organisme qui n'est pas un organisme judiciaire. Si, mais j'ai pas dit, j'ai pas fini. Oui. Je dis que si tu mets en place, comme partout, un dispositif judiciaire, hein, tu as une première instance, collégialité, les règles, etc. Un adversaire acharné de l'arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté. Bon, donc ensuite, le contrôle des décisions des juges, il est fait par la juridiction supérieure jusqu'à la Cour de cassation. Et là, tu institues un organisme
supérieur et différent
qui ne va pas contrôler. Je veux dire, le
droit, l'application.
Il y a l'autorité de la chose jugée, mais qui va contrôler la façon dont les juges ont rempli leur office.
Oui, politiquement.
Parce que quand M. Tournaire.
C'est
le juge d'instruction du pôle financier qui s'amuse, qui a fait des cartons sur Sarkozy, qui a fait d'autres choses, et c'est lui qui a monté l'opération Fillon au profit d'Emmanuel Macron.
Il est juge de quoi, lui ?
Il est juge d'instruction du pôle financier.
Pôle financier.
Hein, ou Madame Houlette, qui est la patronne du
comment, pôle national financier, PNF.
Parquet
national financier, pardon.
Et le pôle financier, c'est le pôle d'instruction.
Absolument.
C'est les juges du siège. Hein. Donc, ces gens, je veux dire, lorsque ces gens-là ont des comportements qui sont des comportements manifestement politiques, c'est-à-dire qu'ils vont au-delà de leur mission, qu'ils, effectivement, comme je l'ai vu, la Cour de cassation qui prend des décisions où elle statue, comme on dit, ultra legem ou parfois contra legem, hein, ça peut arriver. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça existe. Il y a une inspection générale des services judiciaires qui fait des enquêtes quand il y a des problèmes.
C'est l'exécutif, ça.
C'est le ministère. Non, mais d'accord, c'est le ministère.
Est-ce que c'est absurde de dire que c'est le peuple qui peut trancher dans ce cas-là?
Non. Ce que je pense.
Comme un jury d'assises.
Ce que je pense, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature, celui qui peut aussi donner ses avis.
Encore des juges, ça.
Non.
Ah bah comment...
Il faut me laisser finir. Le Conseil supérieur de la magistrature, qui surplombe, qui juge sur le plan disciplinaire, parce que ça peut arriver, hein, les magistrats qui mettent les mains dans la confiture, ça arrive, les conflits d'intérêts qui ne sont pas traités, ça arrive, etc. etc.
Oui, mais c'est pas bien que ce soit des juges qui jugent les juges, quoi.
Mais si.
Ah, mais
vous
ne
pouvez pas le faire taire, parce que je suis en train de te dire que cette commission ne doit pas comprendre un seul magistrat.
Ah, d'accord. D'accord. Ah, ben,
je fais contrôler le travail des juges, non pas Les jugements, ils ont l'autorité de la chose jugée. Mais si je vois la Cour de cassation qui se met à adopter des jurisprudences complètement délirantes,
on est d'accord là.
Dans ce cas-là, je les fais. Effectivement, ils sont attrait disciplinairement devant. Mais comme c'est le cas aujourd'hui, le problème, c'est les règles de saisine qu'il faut changer. C'est que ce soit beaucoup plus facile de saisir. Et deuxièmement, que ce soit devant une structure où ne figure aucun magistrat.
Et alors, tu mets qui ? Tu mets des avocats, tu mets des gens de droit, ou bien tu mets n'importe qui comme aux assises ? Parce que c'est ça l'idée.
C'est une bonne question. Est-ce qu'on en fait un jury avec... Alors, un jury avec un secrétariat général. On a l'exemple du Conseil constitutionnel. Je vais... Non.
On fera une émission spéciale dessus.
Non, je vais y revenir. Il n'y a pas de juristes dans le Conseil constitutionnel.
Il n'y a que des politiciens, c'est scandaleux.
Oui, voilà. Mais qui c'est qui fait le boulot et qui c'est qui décide de tout? C'est le secrétaire général. C'est M. Schrammeck, etc.
Mais ce n'est pas bien du tout. Il faudrait que ce soit les citoyens.
Grand copain de Didier.
Un Conseil constitutionnel, ça devrait être des citoyens.
Droit de réserve.
Je vois pas. Ça devrait être la constituante qui reste mobilisée. Donc c'est les citoyens qui ressortent et qui continuent à appliquer la constitution.
Donc en l'occurrence, là, le Conseil supérieur de la magistrature, ayant des compétences élargies probablement par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui, je ne les connais pas toutes, mais qui ne soient pas composées de magistrats, ça c'est d'accord.
Et alors qui alors? C'est des professionnels du droit ou des simples citoyens? Ou les deux peut-être, hein?
C'est à voir. Non, pas que des professionnels du droit, sûrement pas.
Mais voilà.
Sûrement pas. Est-ce qu'on met un professeur de droit ayant
tu
une stature.
Tu te souviens de l'influence qu'il a quand, dans un jury d'assises.
Oui, bien sûr. Non, mais là-dessus, moi, je pense qu'il faut. Je pense qu'il faut. Il faut regarder un petit peu comment ça peut se jouer.
La graine dans ton jardin et on en reparle une prochaine fois. Il faut que ça grandisse ce truc-là. Mais typiquement, si on se met du point de vue des citoyens, c'est-à-dire des représentés qui ont besoin de justice, c'est à nous d'instituer cette justice en disant voilà comment elle va être rendue et puis voilà comment elle va être contrôlée.
Est-ce que la première question, ce n'est pas déjà de rendre la justice indépendante de l'exécutif?
Mais c'est ça dont il est question.
Elle est, c'est quand même, il y a quand
elle
même.
Elle n'est pas du tout.
Non, attends. On ne se comprend pas.
Non.
On ne se comprend pas. Cette justice.
Régis, expliquez.
Elle est institutionnellement indépendante. Non, mais les magistrats sont.
Non, mais
expliquez
les parquets. C'est une connivence. Les parquets, déjà. Comment
moi,
ça fonctionne?
Moi, je suis pour que le parquet soit soumis à l'exécutif. Alors, c'est l'autorité de poursuite.
Ah bon,
c'est l'autorité de poursuite. Si le juge qui juge.
Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit soumis à l'exécutif? L'autorité de poursuite...
C'est l'avocat de la République.
Mais c'est pas bien que l'exécutif ait le moyen de court-circuiter.
Je ne veux pas qu'un monsieur Tournaire, une madame Houlette, décide, elle, qu'est-ce qui s'est passé avec...
Le micro.
Non, mais pourquoi tu...
Le micro.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Salvini? Salvini, il y a un bateau qui arrive.
Attends, tu rappelles qui c'est.
Salvini, c'est le ministre de l'Intérieur, qui n'a pas particulièrement ma sympathie, hein, ministre de l'Intérieur italien. Il y a un bateau qui arrive dans un port et il dit, avec des migrants dedans, il dit, ils ne débarqueront pas. Hein. Qu'a fait le parquet indépendant? Immédiatement, ouvert une information judiciaire pour séquestration. C'est-à-dire que c'est l'arbitraire le plus total. Les autorités de poursuite doivent être contrôlées et soumises à l'exécutif. Le juge...
Tu vas avoir le problème inverse, c'est-à-dire que le gouvernement va avoir le moyen, par le parquet qu'il contrôle, de ne pas poursuivre tous ses copains politiciens.
Sauf que...
C'est ça qui se passe, les copains politiciens ne sont pas poursuivis parce que l'exécutif contrôle.
Cette particularité est traitée actuellement par la loi, il y a la constitution de partie civile, il y a la possibilité de mettre en mouvement l'action publique, hein. Alors,
le parquet... Donc, même quand le parquet bloque...
Alors avant, tu pouvais le faire quand tu voulais, après, Sarkozy l'a mis une plainte déposé entre la main du proc, s'il ne fait rien pendant 3 mois, hein, hop, tu récupères ta liberté. Et là, on est obligé de nommer un juge d'instruction, par exemple, ou bien tu fais une citation directe devant le tribunal correctionnel. Et ensuite, maintenant, Macron veut que ce soit 6 mois.
C'est pas à lui de décider ça, c'est fou, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Le
processus constituant, là, on est...
Mais oui, mais là, c'est la loi qui vient d'être votée.
Non, mais c'est pas bien que ce soit la loi
et qui a été retoquée en partie par le Conseil constitutionnel, mais ça, personne n'en a parlé.
On est d'accord avec l'idée que ça devrait être la Constitution et pas la loi qui prévoit ça. C'est pas aux élus d'écrire ces règles-là. C'est au peuple lui-même, c'est aux représentés d'écrire ça, non?
Là, on parle d'autre chose. Ce que je veux dire concernant la justice, c'est que le juge du siège, actuellement, ils sont indépendants, ils sont inamovibles, ils foutent rien. T'appelles à 15h30 dans un tribunal,
Il n'y a pas trop de problèmes là-dessus.
Si,
on commence à douter d'indépendance des juges du siège, je ne dis pas qu'ils sont parés de toutes les vertus,
mais peut-être le problème, c'est un problème de comportement personnel, la gestion des carrières, la formation, il faut voir comment c'est formé.
La question est organique au départ, le lien du parquet avec l'exécutif. C'est quand même, alors vous dites, c'est l'autorité de poursuite, effectivement, on n'est plus en démocratie parce que ce serait le pouvoir des juges, je simplifie, mais c'est ça que ça veut dire. Et Étienne dit, mais c'est pas aux hommes politiques d'écrire ça, et c'est pas aux juges de décider.
C'est autre chose.
Déjà réglons cette question organique entre le pouvoir politique et la justice, ça veut rien dire, mais en tout cas entre les parquets, est-ce qu'il faut pas plus d'autonomie pour les parquets?
Mais ils ont l'autonomie. Mais je vais prendre un petit exemple rigolo.
Dans l'exemple de François Fillon, l'autonomie, on peut en douter quand même.
Mais bien sûr que non. Ils ont été parfaitement. C'est une courroie. Mais voilà ce qui s'est passé récemment.
Alors, c'est une courroie autonome. C'est quoi ce concept?
Non. Le parquet, il n'est pas autonome. Le parquet, il obéit aux ordres et les ordres, on les donne.
C'est
interdit de donner des instructions individuelles. On a fait ça pour faire joli.
Et des instructions écrites.
Moyennant quoi?
Elles sont orales.
Individuelles. Michel, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu le truc en Charente où ils ont coupé la tête à Macron en image comme ça et tout. Donc, on a convoqué les gars, les flics ont dit on nous emmerde avec ça, le procureur local a dit mais c'est rien, ça tient pas debout au plan juridique, etc. 10 coups de fil de la chancellerie, 10 coups de fil de Matignon.
Alors, super intéressant ça.
C'est ça l'indépendance ?
Ça vient devant le... Donc, ils sont présentés après une garde à vue alors qu'ils étaient convoqués comme... Comme témoin libre.
Alors qu'en fait, ils étaient accusés.
Et donc, ils se sont retrouvés en garde à vue au bout de 48 heures, etc. Et puis là, maintenant, alors je ne veux pas violer le secret de l'instruction, mais le juge d'instruction, il n'y est pas d'accord. Il dit, attendez, c'est les incriminations que le parquet veut, etc., que le parquet a voulu sur des ordres. C'est-à-dire que Mme Belloubet, qui a interdiction de des instructions individuelles, elle ne s'est pas gênée. À ce moment-là, violant à nouveau la loi.
Quelle est l'institution qui permettrait de punir cette dame?
Ça manque, quoi. La Cour de justice de la République.
Oui, ben, tu comprends, c'est beaucoup trop lourd, ça n'arrive jamais, ça. Quelle institution devons-nous écrire? Mais écrivons-la en dessous, là.
Alors,
dicte-moi le truc.
Non, mais
je fais greffier, le truc. Je note.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord autour de cette table pour que demain matin, Mme Taubira soit mise en prison?
Mais pourquoi, attends, pourquoi?
Ben, pour une raison simple, c'est qu'il y a une imbécile du Front National qui l'avait comparée à un singe ou une guenon ou je sais pas quoi. Hein, elle a organisé elle-même, par une association qu'elle dirigeait, logée chez elle, en Guyane, un procès contre la personne, qui n'a pas pu se déplacer. Hein. Elle l'a fait condamner par un jugement qui était par défaut, elle n'a pas pu se présenter. Hein. Un jugement dans lequel on condamnait également Jean-Marie Le Pen, qui était pour rien, responsabilité collective, un jugement mais parfaitement honteux. Hein. Elle n'a jamais eu le moindre ennui, cette dame.
Moi, je peux vous dire une petite anecdote sur le sujet qui va dire quelque chose de puissant là-dessus.
Ce que je veux dire, c'est que
Régis, quand même, est-ce qu'il est normal, quand elle était garde des Sceaux, elle avait un conseiller, qui était conseiller spécial, qui était son principal conseiller, on va dire, qui était avocat au Conseil d'État, et qui était au cabinet du garde des Sceaux. C'est-à-dire, de temps en temps, il plaidait pour le gouvernement, de temps en temps, contre le gouvernement, et il était au cabinet du ministre de la Justice. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce qu'on n'est pas dans tous les conflits d'intérêts?
Est-ce qu'on va écrire la règle?
Non, mais
elle est la marraine d'anticorps, bon, etc. Et elle se permettait...
Deuxième question sur le lien organique, moi j'appelle ça un lien organique, entre le parquet et le pouvoir politique. Je prends un exemple concret dans l'actualité récente. Quand vous avez la brave dame d'attaque, bon, je ne vais pas refaire la polémique, elle avait le droit d'être là, elle n'avait pas le droit d'être là... On voit clairement, on a des Facebook Live, on voit clairement les images, et que vous avez le procureur de Nice, M. Prêtre, je crois, qui dit, mais non, il ne s'est rien passé, on a saisi les images, personne ne l'a bousculé, etc. Est-ce que c'est, alors qu'on a, ça c'est vraiment une négation absolue du réel, les images sont là, est-ce que là, on voit bien quand même qu'il y a un lien politique, ou alors peut-être que monsieur ne voit pas bien, peut-être qu'il n'a pas la couleur.
Et celui de Toulon.
Et celui de Toulon. Mais bon,
et celui de Bordeaux.
Là, est-ce que ce lien, justement, ce lien entre l'exécutif, entre le pouvoir politique et les parquets, ne pose pas...
Les victimes ont les moyens, Madame Leguet, ou Leguet, je ne sais pas comment on prononce, a les moyens de saisir directement le juge du siège. Mais ce que je voudrais, moi, c'est que institutionnellement, les juges du siège sont indépendants, mais il y a deux problèmes qui se posent. Premièrement, les moyens de la justice, il y a un livre remarquable qui s'appelait « Justice, une faillite française », les moyens sont scandaleusement bas. C'est une honte, la façon dont
il faudrait cinq fois plus de magistrats.
Le livre, il s'appelle « Justice, une faillite française ». Hein, je ne me rappelle plus exactement le nom de l'auteur, c'est une copine, mais deuxièmement, il y a un deuxième fait, c'est qui sont ces magistrats? C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils ont accepté, je parle bien des magistrats du siège, pourquoi est-ce qu'ils ont accepté, comme cette présidente de tribunal correctionnel à Paris, qui condamne un gars à 28 mois de prison, un gilet jaune, et qui dit « mais j'ai même pas eu d'avocat, qu'est-ce que ça aurait changé ?» Alors le Conseil de l'Ordre des avocats n'a pas bougé, hein, naturellement, parce qu'il y a une espèce de cohérence, un corporatisme.
Ils étaient en vacances,
mais
ils font des voyages.
Comment se passe, comment on recrute les magistrats dans ce pays? On leur fait passer un concours qui n'est pas le plus difficile.
Tu pensais que c'était un concours difficile?
Non. Il est un peu plus sélectif maintenant.
Le concours de la magistrature.
C'est pas le plus difficile. Hein. Et puis, il suffit de faire ses études de droit pour voir qui est-ce qui le passe. C'est pas les éléments les plus dynamiques, les plus brillants. Il y a des très bons magistrats, j'en ai connu. Des remarquables. Mais ils sont dans une école, ensuite, ils restent 3 ans dans une école, ils se marient entre eux, c'est endogamique, il y a 80% de femmes et 20% d'hommes. Et au bout de 3 ans...
Ça, c'est vrai dans tous les milieux.
Oui, mais c'est un problème quand même. Hein,
oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est moi, je suis pour la parité. Là, elle est totalement battue en brèche. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout de 3 ans, ils sortent avec un permis de juger. Hein, et ça donne l'affaire Doutreau.
Ah ben, c'est terrible.
Et ça donne un corps qui, là, au coup de sifflet de Mme Belloubet, a accepté de faire le sale boulot.
Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on envoie les magistrats les moins expérimentés dans les affaires les plus difficiles. Un peu comme on envoie dans les EP les enseignants débutants, alors qu'il faut... C'est quand même incroyable, ça.
Oui, mais enfin, il faut quand même rappeler comment est-ce qu'il s'appelait... Burgot,
on peut en parler, oui.
Qui a tout saccagé, etc. Et tout, bon, c'est formidable.
Et qui a eu ça, une belle promotion, juste après. Alors,
bon, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé 3-4 ans après, quand il s'est retrouvé devant le Conseil supérieur de la magistrature? Eh bien, la promotion de l'École nationale de la magistrature qui sortait a voté son nom. Il faut un nom pour une promo. Eh bien, on veut s'appeler juge Burgot.
C'est honorifique.
Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, il faut perdre tout sens commun pour faire un truc pareil. Une abominable tragédie qui a fait des morts, etc., par un type incompétent, arrogant, surtout les gens qui étaient tout à fait sur...
Et puis lui qui était sur de son fait, il s'est planté surtout.
Il s'est planté, et ben les élèves magistrats sont suffisamment corporatistes pour dire par bravade, on veut porter ce nom-là comme truc de promotion, on ne veut pas s'appeler Saint-Gor, on ne veut pas s'appeler... Non, on veut s'appeler Burgot.
Est-ce que tu veux bien, pour me faire plaisir, réfléchir à... un article qui rendrait ça impossible, qui rendrait ces dysfonctionnements impossibles. Je ne te demande pas de répondre tout de suite. Peut-être qu'il va falloir que tu y réfléchisses tranquillement, à ton rythme, à l'heure qui te convient.
Ah bah oui.
Non, il est 9h20, les gars, là. Il est tard.
Mais on en reparlera la prochaine fois.
Je suis attendu.
Régis, faites toute la réforme de la justice. Prenez-moi la comédie humaine et faites-moi une brève.
Régis,
vous avez 2 minutes.
Imagine que c'est toi qui as le pouvoir. Comment tu organises la justice au plus haut niveau du droit pour que ces dysfonctionnements ne soient plus possibles, pour que la population ait une garantie contre ces troubles. C'est-à-dire que la justice ne repose pas sur la vertu des acteurs. On n'a pas besoin de la vertu. Avec de bonnes institutions,
la justice, par définition, inciter à la vertu. Fonctionne sur la défiance. On ne mise pas, mais c'est le cas aujourd'hui.
Non. Tu vois bien que ça marche pas.
C'est le cas aujourd'hui. Je parle des formes. Moi, il y a un problème. Il y a un problème de formation, il y a un problème de moyens, il y a un problème de sociologie, il y a un problème de mécanisme des carrières, etc. Oui, qui est à revoir. Et je ne veux plus qu'on me parle d'indépendance, parce que ça, c'est un mot qui n'a aucun sens. L'indépendance n'est que le moyen de l'impartialité. Et il n'y a pas de culture de l'impartialité. Quand je pense qu'on est dans cette justice, alors j'interdis, bien évidemment, les syndicats de magistrats. Interdiction qui se sont transformés en officines politiques, qui se sont transformés en officine politique, et qui font un mur des cons avec le président de la République, etc. Et
alors,
qui épingle,
ça c'est intéressant.
Sans qu'il ait eu la moindre sanction
disciplinaire. Je vous pose la question à tous les deux. Est-ce qu'il ne faut pas, pour les fonctionnaires chargés de missions régaliennes, interdire toute forme de syndicalisme?
Alors, j'ai déjà écrit.
Comment on peut être policier syndiqué? Comment on peut être magistrat et syndiqué? C'est une question que je pose.
Problème des syndicats de magistrats, c'est que, effectivement... que les policiers soient partiaux, c'est logique. Ils obéissent aux ordres, c'est comme l'armée. Ils obéissent aux ordres.
L'armée, ils ne sont pas syndiqués. Hein.
Non, oui, ça c'est exact. Hein. Mais
pourquoi c'est logique?
Les magistrats, c'est autre chose.
C'est
ce que tu disais tout à l'heure. Un magistrat ne doit pas faire apparaître...
Il ne doit pas être en conflit d'intérêt.
Mais il ne doit pas faire apparaître son opinion dans une affaire d'assises. Il n'y a que lui qui connaît le dossier.
Non, puis on rend la justice au nom du peuple, pas en son nom.
Eh bien, le magistrat doit mener ses débats avec la plus totale impartialité. Ses idées, on s'en fout. Il doit faire son boulot. C'est-à-dire que les magistrats du syndicat de la magistrature qui passent leur temps à critiquer l'exécutif, leur temps à critiquer le législatif, leur temps à donner des opinions, il faudrait faire une loi comme ci, une loi comme ça, ils ne défendent pas des intérêts catégoriels,
si j'écris,
tu vas te faire bien voir.
Les syndicats de magistrats sont interdits. Ça suffit, c'est suffisamment simple, j'oublie un détail. Est-ce que si c'était écrit...
On va se faire aimer.
Mais pourquoi?
Non, mais les magistrats ne peuvent pas se syndiquer.
Voilà, c'est mieux.
Les magistrats ne peuvent pas... Il faut éviter les mots trop...
Mais quoi ?
Interdits, il vaut mieux dire...
Les magistrats ne peuvent pas se syndiquer ?
Les magistrats...
Il n'existe pas d'organisation syndicale dans le corps des magistrats.
Voilà, c'est mieux, c'est encore mieux.
n'existe pas de... Bon, les
il
enfants,
n'existe pas de quoi d'organisation syndicale
que... Écoute, c'est Fidel Castro ici. Ça
je vais me faire tuer par mon épouse, moi. J'ai dit de...
Il faut que tu prennes plus, il faut que tu prennes un crédit de 2 heures. Il faut que je demande, faut que tu me donnes ton numéro. Je vais te faire un mot.
Je vais te faire bien voir.
Il n'existe pas d'organisation syndicale
dans le corps des magistrats.
Dans le corps des magistrats.
Eh bien, on a écrit un article, tiens. Mais tu vois, ce que je voudrais, c'est qu'on en fasse plus, si c'est possible.
Bon, d'accord. Non, mais là, c'est que le début de l'article, hein, parce que c'est,
mais oui, oui, mais si
c'est qu'une partie du problème. Hein.
Mais oui, non, en mais plus, on s'est très éloigné du sujet de ce soir, qui était choisir la procédure de désignation des représentants.
On essaiera d'y revenir plus avec Elisabeth la semaine prochaine.
Ça, c'est un chantier colossal, là, qu'il faut faire.
Mais oui, mais regarde ça.
Mais je ne le conteste pas, à chaque fois, il a l'impression qu'on est en train de le frapper,
alors qu'on l'aime. Avant que tu partes, je voudrais te glisser, excuse-moi, je voudrais te glisser pour que tu vois ce dont je voulais te parler. Des articles que nous avons écrits depuis 10 ans, 15 ans, et qui concernaient les représentants. Je suis page 23 du petit bouquin jaune, là. Regarde, page 23. Ah, c'est bien, il vaut mieux que tu le lises pour bien visualiser ce que je te dis. Absolument aucun pouvoir ne doit rester longtemps dans les mêmes mains, ni parlementaire, ni
gouvernement. Page 23. Ah, pardon.
Page 23, en bas de la page 23, article 1.6, rotation des charges.
C'est surligné.
Hop.
Absolument aucun pouvoir ne doit rester longtemps dans les mêmes mains. Ça, c'est nous qui écrivons, nous les représentés, qui voulons la rotation des charges parce qu'on sait que le pouvoir corrompt et qu'on ne veut pas leur laisser le temps de se corrompre. Ni parlementaire, ni gouvernemental, ni judiciaire, donc les trois pouvoirs habituels de Montesquieu, ni médiatique, ni monétaire.
C'est quoi le pouvoir monétaire ?
Eh bien, c'est le pouvoir de la banque, hein, c'est le pouvoir de la création monétaire, l'attribution des crédits, il faut que ça tourne.
Ah, d'accord.
Alors bon, ça peut se discuter, peut-être qu'on on déconne à avoir mis monétaire. Non,
parce que le pouvoir monétaire, on n'en a plus beaucoup, hein, mais bon.
Ah ben mais justement, on a tout perdu.
C'est pour ça qu'on veut le réinstaurer.
Voilà. Et les mandats doivent être non renouvelables. Et ça, tu vois, c'est nous qui écrivons les principes. Je te donne un autre exemple. Vraiment, il y a plein d'exemples. Je suis page 55. L'État donne aux représentants du peuple. Page 55.
J'y suis.
G. L'État donne aux représentants du peuple les moyens de légiférer, de gouverner, de juger et d'informer, mais il garantit au peuple lui-même la priorité de décision sur tous les sujets de société majeurs. Notamment, le référendum d'initiative citoyenne permet aux citoyens de reprendre directement l'ascendant sur leurs représentants chaque fois qu'ils le jugent nécessaire. Ça pourrait être un sujet de conversation entre nous. Tu vois, que tu me dises, est-ce que je déconne, est-ce qu'on n'est pas assez précis. Ce qui serait fort dans cette émission,
non, mais
ce
après, serait différent. Une fois qu'on a dit ça,
ce serait différent des plaintes. Tu vois, dans les meilleurs des cas, dans le paysage médiatique dans notre pays, nous avons, dans le meilleur des cas, parce qu'on en a de moins en moins, dans les débats politiques, on a des plaintes sur le dysfonctionnement. Et ce que je voudrais, c'est que nous ayons un espace médiatique dans lequel, après avoir décrit ces problèmes, on prenne le truc à la racine et on écrive nous-mêmes les règles qui l'interdiraient. Qui interdiraient ces dysfonctionnements, qui les interdiraient.
Non, ou qui les éviteraient.
Ou qui les éviteraient.
Sur cette histoire du référendum.
Mais je veux pas, tu vois, retarder, hein, c'est pour te donner une idée.
Non, non, mais je comprends bien, mais l'histoire du référendum, il y a beaucoup de débats autour de ça, y compris le référendum révocatoire. Le problème, ça pose derrière, dans le principe, évidemment, je veux dire, on peut qu'être favorable. Derrière, ça pose non pas des problèmes, mais des questions techniques extrêmement importantes, c'est-à-dire le pouvoir d'initiative. Comment est-ce que le pouvoir d'initiative...
C'est à nous d'y réfléchir.
Mais le pouvoir d'initiative, c'est le choix des sujets.
Est-ce que, par exemple,
est-ce qu'on pose des principes ou est-ce qu'on fait une nomenclature,
hein, ou bien est-ce qu'on laisse le libre champ RIC en toute matière.
En toute matière.
Une possibilité.
Oui.
Qu'est-ce qui t'embête là ?
Non. C'est sur les grands. C'est justement sur ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la répartition entre ceux qui doivent faire la technique, hein, et les grands sujets qui interpellent vraiment. Non. Mais là-dessus, ça peut être en toute matière. Hein, on peut imaginer. Bon, alors il y a des processus. Contrôlé d'initiative, il y a un certain nombre de signatures qu'il faut récupérer,
oui,
etc. Bon, sur les sujets, effectivement, il faudra faire, en toute matière, je ne sais pas si c'est opportun.
Qu'est-ce qui t'embête ?
Parce que c'est
Italie,
lourd.
En Italie, il y a des garde-fous. Les garde-fous, par exemple, les Italiens ne peuvent pas déclencher un RIC, un référendum à leur initiative, sur les questions fiscales. Pourquoi nous avons plein d'idées de référendum en matière fiscale? Pourquoi est-ce qu'on prive
Je suis pas compétent. Pourquoi pas de référendum en matière fiscale? Pourquoi un référendum en matière fiscale? Moi, je suis incapable de répondre. Hein, donc,
non, mais il n'y a pas besoin d'être compétent. Non, c'est politique. Si, quand même. Mais pas du tout, c'est politique
si,
ce truc-là.
Etc. Bon, je suis pas un homme du chiffre. Moi, je m'intéresse au domaine.
Mais si on fait un référendum sur la fiscalité, tout le monde va dire qu'il y a trop d'impôts.
Eh bien, et alors est-ce que les gens sont. Ben, on a inventé les parlements pour ça. Bon sang. Le concept de parlement a été inventé pour résister à l'impôt excessif. Et aujourd'hui, on y renoncerait.
C'est pour organiser le consentement à l'impôt.
C'est parce qu'il y avait trop d'impôts qui sont imaginés.
Ce que je veux dire, c'est que techniquement, il y a plein de choses auxquelles il faut réfléchir et tout ça. Et ça se fait dans la confrontation. Moi, j'ai pas assez. J'aurais des idées sur les seuils qui permettent de déclencher, sur la façon de les procédures adoptées, la durée que ça doit prendre. Sur les sujets, est-ce que effectivement pas en toute matière, est-ce qu'il y a un système de nomenclature, c'est-à-dire que on prévoit peut-être des procédures plus allégées sur des sujets.
Des sujets donnés qui méritent.
Et en plus, tout ça devrait être permis par l'explosion numérique. Alors avec peut-être je suis pas hackers, mais je sais qu'il y a beaucoup de possibilités de truquer.
On dit hacker.
Tiens, regarde, regarde page 35.
Comme le bon camembert, il est hacker, tu vois.
Regardez page 35. 35, suffrage universel.
Monsieur Maistre, vous me faites tomber dans des pièges. Hein. Page combien ?
35, regarde.
J'aurais jamais dû aller chez lui, moi. Bien tranquille. Allez, j'y retourne demain dans ma Provence.
C'est super que tu sois là.
Nous n'allons pas tarder à conclure.
Et on va conclure. Regarde, suffrage universel. Page 35. Chaque homme ou femme dispose d'une voix. Cette voix, chaque fois que c'est possible, doit pouvoir exprimer finement sa volonté, à l'aide de points positifs et négatifs, ce qu'on appelle le vote préférentiel. Mais on pourrait aussi parler du jugement majoritaire. Le vote blanc sert à contester en bloc tous les choix offerts à un vote. Il doit être décompté et il doit déclencher l'annulation de l'élection à partir d'un seuil fixé dans la Constitution. Écoute bien, c'est pour ça que je te lis l'article. Toutes les techniques de vote qui ne permettent pas un contrôle direct par les citoyens présents au bureau de vote, comme les machines à voter, sont anticonstitutionnels. C'est ultra dangereux, c'est opaque et invérifiable, les machines à voter. On perd complètement l'expression du contrôle du suffrage.
Je regrette parce que il y avait un côté magique.
Oui, tout à fait. On y arrivera peut-être, mais pour l'instant, en l'état actuel.
Je ne sais pas. Ça me rappelle des souvenirs, moi. Effectivement, l'urne qu'on retournait, puis tu avais un paquet de bulletins, mais il y avait encore l'élastique autour. J'ai réussi à faire... C'était dans les banlieues rouges où ça y allait quand même. Hein. Où les gars, ils avaient obtenu la CGT-EDF. C'était à Noisy-le-Grand. C'est il y a longtemps, hein, tout est prescrit. Ils avaient obtenu qu'il y ait une panne d'électricité sur toute la ville à 20h01. Ah oui. Ploum ! Putain, plus rien, où sont les... Oui, probablement. Donc, c'était rigolo, ça.
Bon, on arrête là pour aujourd'hui.
Il va se faire disputer.
Mais j'ai plein d'idées.
Je propose qu'on
prenne le même thème et qu'on continue sur tout ce qu'on n'a pas traité la semaine prochaine avec Elisabeth. Ça va être bien d'avoir le regard d'Elisabeth.
Il a raison parce que, concernant, je ne sais pas si c'est le vote préférentiel, mais il y a des systèmes de vote de liste, hein, comme ça, les candidats, etc. Puis chacun
donne
vote.
On donne une note à chacun.
Oui,
il y a ça aussi.
A lieu le congrès des vainqueurs, le congrès du Parti communiste d'Union soviétique, le congrès des vainqueurs, je crois que c'est en 1934. Et donc, le comité central est élu, il y a environ 1000 délégués. Le comité central est élu et celui qui est le plus mal élu, chacun, donc c'est la liste, une liste unique, et lui, 950 voix, etc. Celui qui termine avec 750, c'est Staline. 900 des délégués à ce congrès ont disparu.
Ouais, c'est ça.
Comme quoi le vote a ses fins, hein.
La constitution de 36, celle de Staline, c'était pas encore celle-là, donc c'était en 34, tu dis. Donc
c'était le congrès, hein, c'était le congrès des vainqueurs.
La constitution de Staline, elle était belle, mais en fait il y avait pas de constituant derrière, donc en fait elle n'était pas appliquée.
Il y en a une autre. Elles étaient magnifiques sur le papier.
Oui, mais elles n'étaient pas appliquées parce qu'il y avait pas de citoyens constituants. Ce à quoi je travaille, c'est la mutation des citoyens.
C'est comme quand comment Iejov, qui est donc celui qui a organisé la Grande Terreur en 37-38, il est donc 700 000 morts, etc. Et quand, quand il décide de l'arrêter, Staline, lui, en pleine réunion du comité central, il dit « Mais tu as fait, camarade, tu as fait n'importe quoi. Regarde, il avait le code de procédure pénale de l'Union soviétique. Tu n'as pas respecté cet article. Tu n'as pas Le code de procédure pénale, il était magnifique. Hein. » Et donc, et l'autre s'est retrouvé. Il est passé à la trappe, il a été fusillé. Mais le reproche qui lui était fait, c'était de ne pas avoir respecté le,
la loi,
alors que ça a été, il y avait les fameuses troïkas. Ben non, mais c'était, ils avaient des quotas. Ils avaient, il y avait que deux décisions possibles, la mort ou 10 ans de camp. Et donc, on arrêtait les gens la nuit. Et puis, il y avait des troïkas qui prononçaient jusqu'à 1000 condamnations à mort par jour, par nuit, je veux dire.
Et sans doute, pour préciser, 37-38. Justement,
c'est pas ce qu'on veut instaurer. Hein, mais
non, mais ce qui est intéressant aussi, on va conclure là-dessus, c'est que l'idée d'être constituant, une constitution, ça doit fixer des grands principes. Et on ne va pas pouvoir tout régler, de toute façon, même dans l'exercice intellectuel, hein, je dirais. Donc il faut rester à un niveau de principe, de généralité, de principe, moi j'appelle ça, voilà, de principe fondateur, on va dire, constitutionnel, c'est le cas de le dire. Et puis ne pas aller trop dans le détail, et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se perdre en route. Et ensuite, après, je pense que si, je ne sais pas Régis ce que vous en pensez, si on fait une constitution, et après on peut y avoir des codes qui sont afférents, et là où on précise les choses. C'est comme avec le droit, la doctrine, la jurisprudence, etc.
Non, mais on revient à une hiérarchie des normes.
Voilà. Et il faut revenir à cette hiérarchie des normes, parce qu'aujourd'hui, on a tellement produit de normes, parce que trop de normes, c'est fait pour pas penser. Hein. Quand on produit des normes, et les constitutions soviétiques, etc., aussi, justement, on pouvait toujours trouver un alinéa, une ligne, un contrôle, en disant « t'as pas respecté la loi, camarade, on va te couper la tête, ou on va t'exiler à 20 000 km. » Et donc, il faut bien avoir... Pour garantir, je pense aussi, la liberté individuelle...
Il faut que ce soit lisible
et simple. Il faut que ce soit lisible et simple au niveau des principes.
Oui,
on est d'accord là-dessus?
Oui.
Bon. Bah, ça nous amène...
On est reparti, je l'ai relancé.
Je termine.
Ne pas oublier quand même que le diable se niche dans les détails. Donc si on fait que les principes et qu'après ceux qui écrivent
Le principe d'une constitution, c'est des principes.
Alors, je veux pas que ce soit les élus qui écrivent les détails, parce qu'avec les détails, ils peuvent tout
faire.
Ce qu'il faut, c'est
bien de préciser.
C'est logique. La constitution aujourd'hui, elle a repris le préambule de la constitution de 46. Et donc, comme par hasard, c'est là où le
tout
Conseil constitutionnel...
Raclé.
Mais oui, alors donc la fraternité, c'est à valeur constitutionnelle, donc ça a permis de totalement émasculer le Parlement, d'ailleurs, parce que...
Il y a des choses pas mal quand même qu'a fait le Conseil constitutionnel grâce à ce préambule quand même, non? Il y a quand même des grands principes qui étaient absents.
Oui, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on veut?
Je vais mettre à défendre le Conseil constitutionnel.
Mais le problème, là, on parle des principes. Oui. Si le législateur devient le Conseil constitutionnel, ça me gêne un peu, moi. Hein,
Il a...
En fait, alors, tout ça a relevé de la saisine instaurée par Giscard. Il y a du fameux...
Non, mais tout est à changer dans ce fichu.
Oui. Et puis même, alors cette idée des grands principes est déclinée ensuite avec chaque norme inférieure. Moi, c'était Hans Kelsen, qui était un grand philosophe du droit. C'est vrai que tu es prof de droit aussi.
Oui.
Et donc, chaque norme inférieure peut, accorder plus que la norme supérieure, mais pas moins, bien évidemment.
Absolument.
Dans la loi travail, justement.
Ah ben oui, ils ont inversé la hiérarchie des normes. Ça, c'est
scandale absolu.
Bon, les amis, je réponds à une dernière question à Yves, par rapport à Yves de Kerdrel, puisque les citoyens constituants sont venus ici, ils voulaient rencontrer Yves de Kerdrel.
On ne les a pas vus. Ah oui,
non, on ne les a pas vus, mais bon, ils sont sur les réseaux. Donc, j'ai eu Yves de Kerdrel, j'ai donné le numéro de téléphone du Gilet jaune constituant, et il va l'appeler pour lui dire, parce qu'il était dans Bilderberg, etc. Les gens ne comprenaient pas pourquoi j'invitais des chroniqueurs, etc. Mais justement, j'essaie d'inviter des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, parce que de la discussion jaillit la lumière, Fiat Lux, et je ne fais pas de publicité, parce que c'est interdit. Mais donc voilà, si on est d'accord toujours entre nous, on prend les adorateurs...
On s'embête, on progresse
pas. On prend les adorateurs d'Étienne Chouard, les adorateurs de Régis de Castelnau, et on fait une secte, comme ça, on est sûr. Puis à la fin, pour ne pas se séparer, on fait un suicide collectif, et tout le monde sera content. Voilà. Donc les amis, bonne soirée. On se retrouve, partagez... À fond la vidéo.
Je ne sais pas si les ressources y sont déjà.
Ça fait du débat. Et puis bah écoutez, on se rejoint, on se retrouve pour des vidéos live, des Facebook live, réguliers. De toute façon,
quand les gens à écrire eux-mêmes des articles de constitution sur les thèmes.
Voilà, vous écrivez des articles de constitution, vous nous les faites passer par les réseaux. Hein, de toute façon, vous avez vu, c'est ouvert, c'est open, c'est cool. Il n'y a pas d'obstacle particulier.
À bas les cadences infernales.
Donc voilà. Je vous rappelle, pour travailler le livre d'Étienne Chouard, Écrire nous-mêmes la Constitution, si je le montre là, ça devrait marcher. Voilà. Ce sont des exercices pratiques pour préparer un processus constituant populaire. L'idée, c'est un peu de s'exercer justement à ne plus attendre tout d'en haut, mais essayer d'être soi-même un acteur de cette nouvelle société, comme disait Chaban. Voilà. Et donc, bonne soirée à tous. Rentrez bien, mangez bien, soyez heureux. Ne regardez pas trop...
Je te préviens que je ne vais pas être en avance, mais...
La télévision, mais ta femme a écouté, là, c'est bon. Bonne soirée à tous. Merci, salut.
Merci beaucoup,
à bientôt. On va se lever comme Giscard, salut. On va dire au revoir.
Salut à tous. Comment on fait